Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
À la seconde près, il est pile 18h30. Bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match 33e de la saison. 33, on salue, selon la formule consacrée, les auditeurs de la Gironde. Passage, courage aux supporters bordelais. On salue également tous les autres, vous tous qui nous écoutez, qui êtes toujours aussi nombreux à le faire entre 18h30 et 20h. Émission, vous le savez, 100% interactive à retrouver via l'application qui réunit tous les podcasts de RTL. Puis à 20h, RTL Foot avec la suite d'un programme absolument exceptionnel aujourd'hui. Ce soir, intégralité de Lens-Lyon, les Lyonnais en course pour le titre, tout comme Monaco qui cet après-midi a pulvérisé Metz sur le score de 4-0. Et bien sûr, le PSG et Lille qui jouent depuis 17h. Écoutez bien, dans un instant, on retrouvera Nicolas Georgerot. Mais écoutez bien, le score est pour l'instant à l'avantage du LOSC. 1-0 pour Lille face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes après 70 minutes de jeu. Et avec moi ce soir, la voix ensoleillée dont refait le match, Cindy Colmenares, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Le procureur dont refait le match, Gilles Verdez, bonsoir.
Bonsoir.
Le spécialiste des affaires institutionnelles, notamment mais pas seulement, dont refait le match, David Aiello, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et pour que le jeu ne penche pas trop à gauche ce soir, notre ami Baptiste Després du Figaro, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Tous vos messages sur le compte Twitter @RTLFoot, relayé par Baptiste Durieux, bonsoir. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir tout le monde.
Émission interactive filmée sur RTL.fr et réalisée par Damien Béchiot. Bonsoir Damien.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Interview événement de Kylian Mbappé cette semaine sur RTL grâce à Philippe Sanfourche qui nous rejoindra dans un instant. Kylian Mbappé fatigué des critiques. Et alors, c'est quoi le problème? Jean-Luc Mélenchon sur RTL jeudi dernier appelle à boycotter le mondial au Qatar. Ici, c'était lui le fatigué. LOL, bien sûr. Un classement France Football cette semaine avec qui place Jean-Michel Aulas comme étant le plus grand président de l'histoire de la Ligue 1. Et pourquoi pas du monde? Je pose la question. Enfin, juste avant 20h, les tirs au but, c'est une exclusivité. On refait le match. Les faibles sont éliminés au fur et à mesure. Toujours 1-0 pour Lille face au Paris Saint-Germain. Dans un instant, Nicolas Georgerot. Mais tout de suite, vous écoutez RTL, la publicité, et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Alors, par tradition, il y a toujours un petit sujet pour vous échauffer, la tchatche qui décoiffe, histoire de se mettre dans le bain. Mais ce soir, vu l'actualité, pas besoin d'une période de préparation pour éviter les blessures musculaires. On est déjà tous bien chauds sur tous les sujets, ils sont nombreux. Mais d'abord, et dans l'ordre, le direct, Nicolas Georgerot, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Le choc de cette journée avec le match que livre actuellement le Paris Saint-Germain face à Lille, à quelques encablures du quart de finale aller face au Bayern Munich, et ça se passe pas très bien pour l'instant.
Non, parce que oui, Munich, ce sera donc dans 4 jours, et le score pour l'instant, 1-0 pour le LOSC grâce à Jonathan David à la 20e en première période, et grâce à un gros quart d'heure, 16 minutes précisément, et ce Paris Saint-Germain qui reste souvent dans les 30 derniers mètres lillois, qui met la pression, mais c'est beaucoup trop brouillon pour pouvoir pour l'instant tromper Mike Maignan. En fait, c'est assez simple à résumer, les Lillois ont corrigé tout ce qu'ils avaient raté lors du 8e de finale de Coupe de France, et notamment la première période. Et hormis le premier quart d'heure qui a été vraiment sous domination parisienne, et bien derrière, c'est Lille qui fait vraiment une très nette impression. C'est un naufrage, notamment de la part des latéraux parisiens. Paredes en première période aussi, qui a été largement insuffisant. Et notamment Bakker et Dagba sont entrés il y a quelques minutes pour essayer d'insuffler quelque chose, tout comme Rafinha et Draxler. 1-0.
Alors, madame, messieurs, habituellement, on fait le match, c'est une émission de tchatch, de débat, de conversation avec un petit fil rouge, mais là on va peut-être inverser la tendance et consacrer une grande part de cette rencontre à l'intégralité, ou presque en tous les cas, antenne ouverte avec Nicolas Georgerot pour ce match. Il reste encore pas mal de temps à jouer. Un rappel, il est important, la victoire de Monaco face à Metz cet après-midi, Fabregas sur pénalty, Voland, Ben Yedder deux fois, dont un nouveau pénalty qui replace un peu plus encore et un peu mieux Monaco avec un total de 62 points. On va attendre que tout cela se joue cet après-midi, match de 17h, et ce soir avec le match et le déplacement de Lyon à Lens. Et puis je voudrais également qu'on accueille tout de même Philippe Sanfourche qui est avec nous, mais à distance. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous.
Philippe Sanfourche, alors vous savez pourquoi Philippe n'est pas en studio ce soir?
Septaine.
Non, ben, non, il a été séquestré par la famille Mbappé.
Pour quelle raison?
Et on va en parler évidemment. C'est l'interview événement qu'on a qualifié fort justement sur les réseaux sociaux Gilles Verdez. Voilà, c'est la Septaine. pour Philippe Sanfourche qui nous couvrait pour RTL bien évidemment le match en Bosnie, et Philippe n'est pas au repos forcé, on va l'entendre tout au long de cette soirée bien sûr Philippe, mais il faut se mettre à l'isolement, donc on respecte les protocoles, mais tout va bien, les tests sont tous négatifs.
Ah ben bien entendu, les tests sont tous négatifs, et surtout pour rebondir par rapport à votre petite boutade d'entrée, je pense que Kylian Mbappé assume totalement ses propos. Il a pas outrepassé sa volonté de signifier quelques agacements, et
bien sûr.
Je pense qu'il y a absolument pas de position qui pourrait ne pas être en accord
bien
avec
sûr.
Ce qu'il a pu dire au moment du match.
Alors en substance, on va rappeler ses propos pour tous ceux qui reviendrait de la planète Mars. À la question des critiques que tu posais, Philippe, après le match, et pas sur les critiques de Bosnie-France, vous ne pouvez pas lire le journal, le match venait de se terminer. Donc les critiques précédentes, équipe de France et le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé répond, bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale. Ça, c'est la première petite phrase. Ensuite, il explique ses états d'âme. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger, car eux ne reviennent ici que pour l'équipe nationale. Mais moi, je suis là tout le temps. Bien sûr que ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent. Mais je le savais, dit-il, en signant à Paris. Et enfin, quand tu poses la question de savoir si ça peut influer sur sa réflexion concernant son avenir au Paris Saint-Germain, il répond, bien sûr que ça joue, mais il n'y a pas que ça. Et le plus important, c'est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir. Et jusqu'à preuve du contraire, Philippe Sanfourche, Kylian Mbappé n'a pas dit qu'il ne prenait plus de plaisir au Paris Saint-Germain.
Ah non, non, en aucun cas. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre le contexte. C'est-à-dire que, déjà, le contexte de l'interview. C'est-à-dire que ça se passe après match. C'est pas une interview qui est préparée, dans laquelle et le journaliste et l'intervenant ont pu éventuellement échanger auparavant, se disant on va partir sur tel thème, sur tel message.
Voilà, car il faut être précis, on se met jamais d'accord sur les questions, mais de temps en temps, sur des interviews importantes, on peut quand même évoquer les thématiques qui seront évoquées, c'est très clair.
Oui, on sait très bien qu'un intervenant, un joueur de cette importance, parfois accepte une interview parce qu'il sait qu'il va pouvoir faire passer un message, on sait qu'on va aller sur tel thème et qu'à un certain moment précis de sa carrière ou de la saison, il va avoir envie de faire passer quelques messages. Là, ça n'est pas le cas. On est dans une interview d'après-match où certes, Kylian Mbappé sait qu'il peut éventuellement...
Et l'énorme parade de Navas sur Burak Yılmaz qui est dans la surface de réparation. Et Navas qui sauve le camp parisien du 2-0. Yılmaz qui est entré en jeu tout à l'heure à la place de Sanchez et qui voit sa frappe repoussée par Keylor Navas.
Toujours 1-0. C'est notre promesse ce soir. Vous ne manquerez rien des grands moments de Paris Saint-Germain. Lille toujours 1-0 pour le LOSC. La suite, Philippe.
Oui, donc Kylian Mbappé qui à ce moment-là, après la rencontre, et il y a aussi l'adrénaline de la fin de match où forcément il y a un petit peu moins de frein, Kylian Mbappé répond aux questions, il peut ne pas répondre à ce moment-là, il peut tout à fait botter en touche, et là en fait il signifie ce que tous les gens qui côtoient un petit peu et Kylian Mbappé et son entourage savent depuis quelques semaines maintenant, c'est que effectivement il y a une distorsion entre le message qui lui est envoyé au quotidien. Faut se mettre en fait dans le quotidien de Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'en fait il est choyé. Il est au quotidien, tout le monde essaye de lui expliquer que c'est le meilleur du monde. Et entre le PSG qui essaye de le prolonger, le Real Madrid, Liverpool qui sont dans une entreprise de séduction, c'est un peu partie de poker, partie de molki au quotidien. Chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice. Et lui, il entend que des messages positifs. Et à côté de ça, c'est vrai que quand il lit des choses qui sont un petit peu plus négatives à son égard, il comprend pas la distorsion entre le fait qu'on dise c'est la chance du PSG, c'est la chance de la Ligue 1 pour les 10 prochaines années.
Bien sûr.
Et en même temps, on ne veut pas le retenir. Donc, je pense qu'il faut percevoir les choses comme ça aussi.
Alors, on va faire tourner la parole, mais je vais reprendre à mon compte la question, excellente question posée par Eric Silvestro et toute l'équipe de RTL Foot hier. Ensuite, j'aurai toute une série d'autres questions. Sincère ou calculateur, Kylian
Justement,
Mbappé.
C'est une très bonne question parce que je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Philippe. J'ai apprécié que Philippe là, nous redonne un petit peu le contexte parce que je ne fais pas exactement la même lecture, mais c'est bien qu'il soit là puisque c'est lui qui a fait l'interview. Je me dis quand même, Kylian Mbappé, sa parole est rare. Alors certes, c'est une interview d'après-match, mais il est quand même venu, et d'ailleurs tu l'as rappelé Philippe, il n'est pas obligé de répondre en question, il est quand même venu répondre à une interview d'après-match, il aurait pu dire non, pas aujourd'hui, pas cette fois-là, etc. Donc moi, j'ai quand même dans l'idée qu'il est venu faire passer un message. Alors certes, c'est une interview d'après-match, etc., mais Philippe, est-ce que tu n'as quand même pas cette sensation qu'il est venu? Donc, je réponds à la question, pour moi, c'est un petit peu calculateur, en tout cas prémédité. Il est venu faire passer un message.
Alors, prépare ta réponse, Philippe. Alors, je crois l'adviner, mais on va faire tourner la parole en studio également. Sincère ou calculateur, Gilles Vernez?
Parfaitement sincère. Pour moi, Mbappé, c'est Van Gogh. Donc, j'en ai ras-le-bol. On ne critique pas Kylian Mbappé. Moi, si j'étais Mbappé, j'aurais répondu, mais avec mille fois plus de virulence. Donc, quel homme fantastique, quel joueur extraordinaire de garder son calme, non pas face à Philippe, mais face à tous ces détracteurs immondes qui traînent Mbappé dans la boue, alors que c'est une légende française. Bravo Mbappé, bravo Philippe.
Baptiste Després, Figaro.
J'irai pas jusqu'où va Gilles sur ce point-là, mais en revanche, pour répondre à votre question, c'est moi, pour moi, il est sincère. Il est sincère, mais il se trompe sur une chose. Sincère sur le côté où il répond franchement aux différentes questions de Philippe, qui sont pas forcément faciles. Sincère sur le côté, il a le droit de dire aujourd'hui que les critiques le fatiguent. Il a le droit. Il dit pas que ça l'agace, etc., mais il dit que ça le fatigue. En revanche, au niveau de la sincérité, j'ai un doute sur le côté où il dit c'est peut-être ça qui peut faire que je peux partir à l'étranger. Mmh. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une fausse excuse.
Mais le Figaro est à droite et pas au centre. Donc là, un coup, il est calculateur et un coup,
non,
il est sincère.
Non, dans la grande majorité de son discours,
il est sincère. Qui se dessine du tout, du tout. La présidentielle.
Du tout.
Sincère ou calculateur?
Sincère, je pense que les questions de Philippe ont été bonnes et c'est justement à cause des questions qu'on voit qu'il peut vraiment se libérer, se laisser aller et dire enfin ce qu'il avait sur la tête. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, parce que les critiques, il y en aura toujours. Il y a forcément, quand un joueur est bon, il y a plus d'expectatives par rapport à lui, et il n'est pas très critiqué comparé à d'autres joueurs. Regardez un Messi au Barça, à chaque fois il a fallu qu'il remette un peu les choses dans l'ordre, parce qu'il y avait un geste, quelque chose, on venait tout de suite les casser.
Bon, donc tous les avis sont partagés. Corner qui n'a rien donné à l'instant, Nicolas Georgerot pour le Paris Saint-Germain, je ne me trompe pas?
Rien du tout, et ce ballon qui est arrivé second poteau, une touche dans la foulée, un ballon qui sera rendu au Lillois. Toujours 1-0 pour le LOSC, et il reste un petit peu moins de 8 minutes dans cette partie.
On va débriefer évidemment de ce match, ne vous inquiétez pas, on va débriefer de ce match dans un instant avec Philippe Sans Fourche qui poursuit sa septaine, avec ici en studio Gilles Vernez, Baptiste Després, Nicole Ménarès et David Ayello. Et toi, ton avis, sincère ou calculateur, Philippe Sans Fourche? Allez, sincère.
Allez, moi j'ai envie de faire référence à un souvenir, rappelez-vous, les trophées de l'UNFP 2019. Quand il fait sa sortie sur je veux des responsabilités, je veux plus de responsabilités au PSG. Quand il monte sur l'estrade et qu'il prononce ces mots-là, 30 secondes auparavant, il est à table avec tout son entourage, avec son père, avec les gens qui façonnent le clan Mbappé. Personne ne sait à ce moment-là qui va sortir ça. Ça lui vient comme ça. Kylian Mbappé, il a aussi ses fulgurances. C'est aussi un garçon qui, on le sait, c'est au niveau intellectuel, ça va vite, ça fusionne. Et je pense qu'à ce moment-là, il ne fait que signifier quelque chose qui est en lui. C'est-à-dire, on le sait qu'il pense ça, que les critiques, quelque part, commencent à lui peser. Mais il n'a pas l'intention de faire passer ce message de manière précise à ce moment-là. Simplement, il se trouve que moi, je lui pose la question à ce moment-là, et que là, il trouve comme ça, de manière, comme une fulgurance, que c'est le moment de faire passer le message.
Alors peut-être
je ne pense
aimé,
pas que c'était préparé.
Peut-être, Philippe, qu'on aurait aimé aussi d'autres fulgurances. Lorsqu'on l'a glorifié avec son match aller formidable et ses 3 buts à Barcelone, là, il n'était pas critiqué, et à juste raison. Gilles Vernez, vous n'avez pas l'air...
Mais
à ce moment-là, c'était pas des critiques, ce n'était que des louanges.
Mais c'est normal. Donc,
mais bien sûr, mais il n'est pas que critiqué. Quand Canal propose les 100 buts de Kylian Mbappé, c'est une ode à Kylian Mbappé. C'est normal, bien sûr, je n'en disconviens pas, mais néanmoins, voilà, je veux dire, peut-être trop sensible à la critique, peut-être pas suffisamment ouvert aux compliments, et ce qui nous fait donc un Kylian Mbappé à deux faces.
Mais il n'est pas Olivier Giroud non plus, hein, parce que bon, il y a des joueurs qui ont dû vraiment s'expatrier, qui jouent à l'étranger, Olivier Giroud est dans un cas où, malgré lui, il se retrouve dans des polémiques, donc jouer en France aurait été compliqué. Kylian Mbappé, il est critiqué effectivement, mais il est aussi, comme vous l'avez dit à juste titre, complimenté quand il fait des bons matchs. C'est juste un grand joueur, il faut les comprendre. défendre.
Gilles Verdez.
Mais moi, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, Christian. Excusez-moi. C'est normal de louer Mbappé quand il marque 3 buts, mais c'est normal de louer Mbappé, de le porter au nu pour tout ce qu'il est, même quand il est mauvais. Mais non, ce n'est pas normal. Mais non, on ne critique pas Van Gogh. Pourquoi vous critiquez Mbappé et vous critiquez. Mais quoi, ça n'a rien à voir.
Parce que c'est comme.
Il en fait zéro. Comme Mbappé, il fait zéro mauvais match.
Van Gogh fait zéro tableau, peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment qualifié. Mais Mbappé, je constate quand même qu'il fait parfois de très mauvais matchs.
Mais excusez-moi, à force de répéter, et je ne parle pas de vous là, mais à force que des gens répètent qu'Mbappé fait des mauvais matchs, eh ben, vous allez le faire fuir.
L'exil d'Mbappé, ce sera le vôtre. C'est une fausse excuse, ça, Gilles.
Mais non,
mais pourquoi
vous le forcez à partir, mon cher. Mais vous le forcez à partir. Bah parce qu'ailleurs, il ne sera pas critiqué.
Non, mais c'est qu'en Espagne, vous pensez qu'en Angleterre,
c'est faux.
Par Liverpool ou autre, avec les tabloïds, ce ne sera pas encore pire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça.
Cindy Colmenares.
Attendez. J'adore la mentalité de Gilles. Vraiment, dans un univers merveilleux, j'adore. Mais il est vrai que s'il part en Espagne, vous avez vu la presse espagnole, vous avez vu comment il traite un étranger, Messi, qui vient d'Argentine, alors que c'est un génie. C'est très fort, donc il va être
Van
aussi être cliniqué.
Vous parlez de Van Gogh, il n'a pas dû vendre beaucoup de tableaux de son vivant, déjà.
Et on le regrette. Maintenant, le moindre, ça reste 13 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est trop tard. Et là,
18h46, est-il bon ce soir, Mbappé, Nicolas Georges Giraud, au direct du Parc des Princes?
Plutôt à mettre dans la catégorie mauvais match. Hein. Il a plus
attention,
aussi
un carton
jaune. Il vient de prendre un carton jaune, là, dans un contact au milieu de terrain, où ils étaient 15 autour de Monsieur Bastien, puisqu'on en est à... 5-2, ça c'est le score au niveau des cartons jaunes. 5 pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui poussent un petit peu avec Paredes. Neymar qui prend cette balle. J'étais en train de regarder, il reste 3 minutes 20 dans le temps réglementaire. Il y aura faute sur Neymar et il y aura un coup franc à venir pour le Paris Saint-Germain. Toujours à 0 pour le LASK.
Fin de match qu'on va suivre ensemble, bien évidemment. Donc, excellente question posée dès hier par l'équipe d'RTL Foot, sincère au calculateur. Et j'essaierai dans un instant, après la pub, d'agréger d'autres petites questions sous forme de débat. Qu'il parte ou qu'il reste, finalement, ce sera un bon choix. Hein, plan de carrière. Eh oui, mais si c'était vous le plan de carrière, vous le feriez de la même façon. Un buzz inutile, c'est-à-dire qu'on tire d'une phrase une pelote et finalement ça arrange bien tous les journalistes. Mais il est resté finalement naturel. Et puis après tout, vive la langue de bois, publicité.
RTL, on refait le...
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Nicolas Georgiou, Neymar a-t-il le droit d'être critiqué sur le coup franc qu'il vient de tirer à l'instant même?
Doublement, à la fois en seconde et en première période, puisqu'il en a frappé deux et les deux complètement dévissés. Ballon là cette fois qui passe via 4-5 mètres au-dessus de la barre transversale de Mac Maignan. C'était parti encore plus haut en première période sur un coup franc légèrement excentré sur la gauche et qu'il avait mal négocié. Il reste 1 minute et 10 secondes dans ce temps réglementaire et le Paris Saint-Germain est toujours mené 1-0, le but de Jonathan David en première période et des Lillois qui sont bien solidaires, bien collectifs, qui vont peut-être même exploiter quelques contres avec Yilmaz ou avec Wea, le ballon qui va arriver jusqu'à Navas, ce sera relancé de derrière pour les Parisiens. Toujours 1-0 pour le LOSC.
Mademoiselle, messieurs, et Philippe Sanfourche, toujours en septaine, qui peut intervenir à tout moment. Petite question comme ça, générique. Qu'il parte ou qu'il reste, finalement, ce sera le bon choix, c'est un plan de carrière pour Mbappé.
Mais ça veut dire quoi, ça sera le bon choix?
Qu'est-ce qu'il y a de choquant?
Il n'y a rien de choquant, de toute façon, ça sera son choix, effectivement. Après, c'est juste qu'effectivement, nous, en tant qu'observateurs, on aimerait bien, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été rappelé, c'est que, j'allais dire, on souhaite son...
Rouge pour Neymar. Rouge pour Neymar, sur un contact avec Diallo. Il a voulu aller récupérer le ballon, il était au contact, le Brésilien. Il y avait beaucoup d'agacement de sa part, il a fait n'importe quoi en seconde période. Et derrière, le deuxième jaune donné par Monsieur Bastien, c'est rouge pour le Brésilien qui revenait de blessure, qui avait joué 20 minutes à Lyon avant la trêve internationale et qui sera donc automatiquement suspendu.
Mais qu'est-ce tout le monde que est les Parisiens ont à protester, franchement?
Il avait déjà pris un jaune sur un geste d'humeur.
Hein, oui,
un geste d'humeur, c'était quasiment, presque, pas tout à fait, mais comme une fourchette, hein, face à je ne sais plus qui. Hein, il y a un geste
face à André.
André, il aurait pu prendre rouge dès sa première. Mais qu'est-ce que les Parisiens ont besoin d'aller protester?
De toute façon, ce carton rouge, on le voyait venir depuis la 30e minute. Ils sont extrêmement nerveux. Paredes est passé pas loin, Gueye également.
Depuis le but lillois, ils sont d'un nervosité.
Il faut rappeler la situation, c'est que Neymar perd le ballon dans son duel, glisse, donc déjà mauvais perdant, le ballon sort en touche. Qui est-ce qu'il récupère côté lillois?
C'est Diallo.
Voilà, mais bon.
Moi, je suis absolument pas d'accord avec vous.
Hein. Philippe Sanfourche?
Ah ouais, pour moi, il se passe rien, en fait. Il veut y récupérer un ballon parce qu'on est à la 90e et qu'il y a un ballon à jouer. Il n'y a aucun geste d'énervement ni d'agressivité. Et là, on est en train de revenir au... Non, non, de la part de Neymar. Ah, si. Il veut récupérer un ballon. Qu'est-ce qui prend un nouveau jaune et un rouge? On est exactement dans le débat qu'on vient de faire sur Mbappé.
Non, mais attends.
C'est-à-dire qu'en fait, Monsieur Bastien se comporte avec Neymar.
Chercher le ballon. Tu as vu la façon
Non, 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 non. Monsieur Bastien se comporte avec Neymar comme un petit chef. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, on est dans le pays des champions du monde et donc on est arbitre d'un pays champion du monde et on veut montrer à Neymar qu'on est au-dessus de la mêlée et que c'est pas parce qu'il a du talent qu'il doit faire ce genre de geste. Mais il fait rien de grave là, Neymar, sur ce coup-là. Lui mettre un rouge, c'est vouloir se montrer.
Enfin, non, mais tu plaisantes,
c'est vouloir se montrer comme un petit chef.
Philippe, ça vaut un jaune. Ça vaut
Monsieur
un jaune.
Bastien est un petit non, chef. Il met un rouge à Neymar pour montrer qu'il existe dans le panorama.
Non, mais il n'existe pas. J'arrive, Nicolas. Non, c'est une contre-vérité ce que tu es en train de dire, Philippe. Il ne met pas un rouge, il met un deuxième jaune. Le jaune est mérité, il en avait déjà
un. Il n'a pas à mettre un deuxième jaune. Cette action ne mérite pas un deuxième jaune.
Et Diallo prend rouge également.
On peut comprendre que des joueurs de talent comme Neymar ou comme Mbappé n'aient pas forcément envie de rester en Ligue 1 quand on voit ce genre de comportement de la part de l'arbitrage français.
Non, mais là,
franchement, la réaction de Neymar, c'est de la bêtise. Et j'aime bien ces joueurs comme les autres joueurs sud-américains qui sont en France. Mais là, sincèrement, on est habitué à que Neymar, il y a les nerfs qu'il lâche à chaque fois qu'il est dans ce genre de situation où l'équipe est en train de perdre, qu'il se trouve sans solution. Et voilà, et on en arrive à ça. Et ça, c'est à son niveau, ça commence à être fatigant, en fait.
Gilles Verdez.
En tout cas, vous disiez, Christian, que les Parisiens n'ont pas à protester. Ah si, moi, je trouve que leur réaction est géniale. Alors, je suis d'accord que Neymar mérite d'être expulsé.
On ne peut pas tout dire et n'importe quoi.
Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous laissez Neymar seul dans une situation comme ça, vous perdez Neymar pour le grand match de Ligue des Champions. Il faut lui dire, on est avec toi, c'est injuste, même si on ne le pense pas. On est là, tu vas voir, on t'entoure. Sinon, Neymar, il va disjoncter. Donc, ils ont tout à fait raison d'entourer Neymar.
Ah oui, ok, non, mais on parle pas de ça.
De
on
l'entourer
parle de
au moment où il a pris un champ jaune, c'est ça?
Oui, bien sûr, de l'entourer, d'être avec lui. Les autres Parisiens
ils sont en train de perdre la tête du championnat, c'est pour ça, c'est pas parce que Neymar prend un jaune.
Si, c'est pour
mais
pas
non, c'est
Neymar.
Parce qu'ils sont très fébriles depuis le début du match.
Quoi qu'il en soit, pour finir sur cet incident, je vois ce que veut dire Philippe, parce qu'effectivement, s'il y a un petit peu de pédagogie, on peut se dire que mettre un deuxième jaune à ce moment-là, c'est peut-être un petit peu sévère, même si en soi.
Mais est-ce qu'il l'a pas prévenu, David? Est-ce que l'arbitre l'a pas prévenu après son premier geste?
Intéressant sur cette séquence, c'est que ça traduit quand même une extrême nervosité et frustration des Parisiens depuis, au moins, Nicolas l'a dit tout à l'heure, depuis au moins une heure de jeu, parce qu'ils sentent qu'ils n'y arrivent pas, que Paredes aurait pu prendre un rouge déjà, que Gaï également, et qu'on sent que c'est le mauvais Paris Saint-Germain, c'est le mauvais visage du Paris Saint-Germain qu'on a ce soir, c'est celui qu'on n'avait pas vu à Lyon, et celui qu'on a vu trop souvent cette saison, c'est que quand ils n'y arrivent pas, ils s'énervent et ils perdent leurs moyens.
Et la façon dont Neymar va chercher le ballon dans les mains de Diallo, excusez-moi, sachant qu'il a déjà un carton, quand tu t'appelles Neymar, avec l'expérience que tu as, eh bien, tu ne le fais pas comme ça.
C'est une réaction
je voulais intervenir tout à l'heure parce que en fait, ça restait chaud à l'entrée du tunnel parce que Diallo aussi a pris un jaune et donc c'était son deuxième jaune et a aussi été exclu. Donc 10 contre 10 pour terminer. Mais ça restait chaud vraiment entre les deux joueurs au moment de rentrer au vestiaire puisqu'ils rentraient côte à côte. Attention, le Paris Saint-Germain dans la surface de réparation avec Mbappé, Bakker qui va centrer. Ballon second poteau, la tête là-bas. Le ballon de Draxler, c'est au-dessus de la barre transversale. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. Toujours 1-0 pour le LOSC qui fait une excellente opération en reprenant la tête du championnat en s'imposant et ce serait la 5e défaite à domicile en championnat pour le Paris Saint-Germain. C'est le score, on reste là.
Philippe Sanfourche, dans l'interview événement réalisé avec Kylian Mbappé cette semaine, il y a une réponse qui est passée, je trouve, un peu inaperçue à la question, le Paris Saint-Germain a-t-il progressé? La réponse c'est difficile, il parlait de la finale, une finale c'est un autre contexte, il suffit d'une défaite, vous savez, pour dire que l'équipe n'est pas bonne, mais c'est à la fin de la saison qu'on fait le bilan, on ne le sentait pas là solide sur ses appuis.
Ah mais il botte clairement en touche, c'est très très clair, c'est-à-dire qu'il ne répond absolument pas par l'affirmative au fait que le Paris Saint-Germain ait plus de chances d'éliminer le Bayern ou que l'équipe soit plus forte que la saison passée. Que ce soit Kylian Mbappé ou Neymar d'ailleurs, dans l'entreprise de prolongation de leur contrat, il est très clair qu'au-delà des considérations financières, de statut, tout ce qu'on connaît, il y a le fait de muscler l'effectif. On va pas citer les noms un par un, mais sur les postes de latéraux dont parlait tout à l'heure Nicolas, qui une fois de plus ont fait défaut sur le match, je pense à des garçons comme Diallo, je pense à des garçons comme peut-être qu'il ne jouait pas ce soir, Florenzi au milieu de terrain. Paredes en ce moment il a un petit peu la cote, mais on va dire il est surtout extrêmement surcoté. Je pense à Gueye, je pense à Herrera. pour Mbappé comme pour Neymar, ces joueurs-là ne sont pas les compléments idéaux pour aller gagner
dernier
une
corner.
Ligue des Champions.
Dernier corner avec Navas qui est monté.
Je voudrais simplement dire que depuis 18h30, le coup d'envoi a été donné entre Leipzig et le Bayern et que le score
pour l'instant... La tête de Marquinhos, le ballon second poteau, c'est pas cadré, ça va sortir, ce sera un ballon pour le LOSC alors que Navas était tout proche de prendre cette balle et monsieur Bastien ne va pas tarder à siffler.
0-0, 21 minutes de jeu entre le choc entre le Leipzig et le Bayern Munich. On va rester quand même au Parc des Princes, Nicolas Georgerot.
Avec Mac Maignan qui va se saisir de la balle et monsieur Bastien d'ailleurs qui vient lui dire de se presser parce qu'il cherche ici la fin de la rencontre, la victoire du LOSC au Parc des Princes, 1-0, le but de Jonathan David à la 20e. Ils ont parfaitement manœuvré dans cette partie à Paris Saint-Germain, très brouillon cet après-midi face au LOSC, et les Lillois qui s'étaient inclinés 3-0 en Coupe de France ont largement corrigé leurs erreurs, ont fait preuve de beaucoup plus de réalisme, un tir cadré, un but en première période, mais il y a eu beaucoup d'insuffisance dans certains secteurs côté parisien, notamment au milieu de terrain, notamment en défense avec l'adversaire qui a su très bien exploiter les espaces dans le dos de la défense, et donc le LOSC qui reprend 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain en tête du classement de la Ligue 1.
Décryptage, réaction indispensable à partir de 20h RTL Foot, Nicolas Georgerot bien évidemment, car au-delà effectivement de l'énervement qu'on a souligné tout à l'heure, c'est quand même l'indigence du jeu parisien face à Lille.
Mais oui, non, mais parce qu'en fait il y a un problème défensif qui est atroce dans les buts des Jonathan David. Ils ont vraiment, les Parisiens, laissé un boulevard, c'est-à-dire que les joueurs, il s'est retrouvé seul, il avait le temps d'ajuster, de faire sa frappe, il n'y avait personne sur lui. C'est à la dernière minute où ils se sont rendus compte qu'il y avait un joueur qui allait frapper, qui est en plein axe.
Jonathan
et qui
David
pouvait
qui
marquer.
Est sorti en première période, hein, blessé. Hein.
Oui, donc enfin, on s'est dit, il y a un grand Mignon aussi qui a fait que l'équipe des Lille n'a pas encaissé des buts, parce qu'il y a eu aussi des occasions, mais c'est surtout des erreurs défensives et offensives du PSG.
La faiblesse du jeu parisien, Gilles Vernez.
Oui, ça ne les intéresse pas, la Ligue 1. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Ils sont déjà au Bayern, on voit, ils n'étaient pas motivés, ils ont essayé, il y a eu un peu de. Quelques fulgurances, quelques actions, mais ils n'étaient pas là, pas concentrés, surtout pas se blesser. C'est le Bayern qui prime. La Ligue 1 n'est pas nécessaire ni vitale au PSG cette année.
Il faut quand même mettre en avant la sacrée performance des Lillois, qui ont su rectifier quand même des choses. On a vu Benjamin André et Soumaré qui ont juste asphyxié Paredes et Gueye en première mi-temps, voire en seconde. Diallo et à droite, Kerrer n'ont pas existé. C'était quand même vachement intéressant. Et là, la prestation par rapport à Christophe Galtier est une vraie réussite.
David Ayello.
Ben, c'est quand même assez inquiétant parce que Gilles, j'entends ça. Si c'est une explication, je veux bien, ça peut pas être une excuse. En revanche, enfin, je veux dire, le Paris Saint-Germain se doit de remporter la Ligue 1 tous les ans. Donc s'il laisse filer ce match-là parce qu'il y a dans 3 jours un choc face au Bayern de Munich, c'est quand même extrêmement grave.
Philippe Sanfourche, 30 secondes pour conclure sur ce match face à Lille et on restera ensemble. Compte tenu du résultat, on va changer un peu le conducteur pour parler effectivement du match de mercredi face au Bayern de Munich. En 30 secondes par rapport au résultat de ce soir.
Eh bien, très clairement, le Bayern est dans toutes les têtes. Et effectivement, si Kylian Mbappé, c'est le Van Gogh du foot français, Neymar, c'est Rembrandt. Et on touche pas à Neymar.
J'ai pas le temps de répondre à ça. 18h59, la publicité, les informations. Philippe, tu restes avec nous. On prendra quelques minutes pour parler du prochain rendez-vous, qu'on pourra suivre d'ailleurs sur l'antenne de RTL mercredi entre 20h45 et 23h. Le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Germain, à tout de suite, la pub.
On refait le match sur RTL.
Il est 19h. 19h, les informations. Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Le vrai faux confinement désormais étendu à toute la France. Les règles déjà en vigueur dans 19 départements s'appliquent désormais partout. Ce soir, les commerces non essentiels devront rester fermés. Les déplacements limités à 10 km autour de votre domicile. Pardon. Pour les déplacements interrégionaux, une tolérance est prévue jusqu'à lundi soir pour permettre aux Français de choisir leur lieu de confinement alors que les écoles vont fermer pour les 3 ou 4 prochaines semaines. En Ile-de-France, 6600 policiers et gendarmes sont mobilisés pour veiller au respect des mesures sanitaires, notamment pour verbaliser les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique et ceux qui boivent de l'alcool dans les secteurs où c'est interdit. Pour empêcher les apéros sauvages, le gouvernement a décidé que la vente des boissons alcoolisées à emporter serait désormais interdite pour les restaurants, les cafés, sauf si c'est une boisson qui accompagne un repas. Le Premier ministre salue la mobilisation sans faille de la gendarmerie. Depuis le début de la crise sanitaire, l'État compte sur votre implication dans la réussite. réussite de la campagne vaccinale, a-t-il déclaré aux forces de l'ordre lors d'un déplacement en Dordogne. Depuis le début de l'année, 211 escortes de vaccins ont été réalisées par la gendarmerie. 11 sites de stockage sont sous la surveillance des gendarmes, a rappelé Jean Castex. Les inquiétudes continuent autour du vaccin AstraZeneca. L'agence britannique du médicament révèle que 7 personnes sont mortes au Royaume-Uni après avoir été vaccinées. 30 cas de thrombose ont été signalés sur un total de 18 millions de doses injectées outre-Manche. En France, en cas d'effet secondaire qui dure depuis plus de 3 jours, essoufflement, douleur thoracique, gonflement des jambes, l'agence de sécurité du médicament recommande aux personnes vaccinées avec l'AstraZeneca de consulter immédiatement un médecin. Ramsès II, Hatshepsut et bien d'autres, 22 momies de rois et reines d'Égypte ont défilé dans les rues du Caire. Tout à l'heure, une procession inédite à l'occasion du transfert des dépouilles depuis le musée du Caire pour rejoindre leur nouvelle demeure au musée national de la civilisation égyptienne. Un déménagement pharaonique sous haute surveillance policière. Un mot de rugby, la Coupe d'Europe. Lyon affronte actuellement les Anglais d'Exeter et les Lyonnais sont en tête pour l'instant. Ils mènent 17 à 10 face aux Anglais. Le Stade toulousain tout à l'heure a battu les Irlandais du Munster 40 à 33. Qualifié également pour les quarts de finale, Clermont vainqueur des Wasps 27 à 25. La météo pour demain, les températures continuent de baisser mais le ciel va rester plutôt bien dégagé hein, malgré toujours de l'instabilité entre le sud des Alpes et la Corse avec quelques averses. Et puis les départements près des côtes de la Manche vont conserver un ciel passablement nuageux. Les températures pour demain, il fera 8 degrés seulement à Boulogne-sur-Mer, 13 à Lille, comptez 14 degrés à Verdun, à Brest et à Paris, 15 degrés à Reims, 17 à Valence, 18 degrés à Toulouse et à Grenoble, 20 degrés à Marseille, 21 à Perpignan. Les courses à l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet, il fallait jouer le 6, le 2, le 3, le 11 et l'As. Il est 19h03 sur RTL. C'est la suite dont on fait le match avec vous, Christian.
Prochaines informations, 20h, Alexandre.
Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On refait le match avec un résultat que vous avez pu suivre, le match, mais le résultat, vous avez pu l'apprendre en écoutant Nicolas Georgerot, Parc des Princes, la défaite du Paris Saint-Germain à domicile face à Lille sur le score d'un but à zéro, ce qui, d'une certaine façon, rebat les cartes au classement général et resserre les positions. Excellente opération pour Lille, désormais avec un total de 66 points derrière le Paris Saint-Germain et Lyon avec 63 points. Mais si Lyon bat Lens à Bollaert ce soir, eh bien l'équipe de Rudy Garcia reviendra à la hauteur du Paris Saint-Germain. Et cet après-midi, c'était le match de 13h, Monaco qui a battu Metz, on en parlera dans un instant, sur le score de 4 buts à 0, eh bien revient également et talonne le PSG, Lille leader et Lyon. Monaco avec un total de 62 points. De la Ligue 1, on va en parler évidemment dans un instant. Philippe Sanfourche, qui poursuit sa septaine depuis son déplacement et son interview événement en Bosnie avec Kylian Mbappé. En studio, Gilles Verdez, le procureur, Baptiste Després pour le Figaro, David Aiello, spécialiste des affaires institutionnelles, mais également du 4-4-2, et la voix ensoleillée dont refait le match, Cindy Colmenares. Alors, l'adversaire du Paris Saint-Germain sera le Bayern Munich. Ce sera mercredi, intégralité à suivre sur l'antenne de RTL. Et pour l'instant, et après 32 minutes, si vous avez pu jeter un œil sur la physionomie de cette rencontre, les amis, aidez-moi. Mais le score, lui, en tous les cas, est de 0 à 0 entre Leipzig et le Bayern Munich. Les réseaux sociaux, vous le savez, cette émission est filmée. Les auditeurs peuvent nous rejoindre sur l'application, mais également sur internet rtl.fr et peuvent envoyer tous les messages sur le compte @rtlfoot, message relayé par Baptiste Durieux.
Et ils sont nombreux, beaucoup de messages sur la sortie de Mbappé justement. Johan nous dit « La spontanéité, elle est sur le terrain pour Mbappé, mais elle n'est jamais en zone mixte ou en interview. Je ne peux pas croire que la parole d'Mbappé ne soit ni écrite, ni calculée, ni préméditée. Tout est géré sur mesure, à la virgule près au niveau de sa communication. » Message d'Eliott qui nous dit « Les joueurs de foot ne sont pas des hommes politiques. Évidemment que la réponse d'Mbappé respire la sincérité et la franchise. Elle est naturelle et elle est même quasiment impulsive. Et ça ne trahit pas. » Et message de Ryan, Mbappé, génie de la communication qu'il est, aurait pu reconnaître que les critiques, aurait pu reconnaître les critiques tout simplement, tout en disant aussi qu'elles sont constructives, qu'elles le motivent, qu'elles ont aussi un effet positif. Ça, ça aurait été intelligent de sa part.
Vous continuez de nous rejoindre. L'impulsivité, sans doute, c'est Mbappé, le naturel également, mais le côté calculateur, c'était la question depuis 18h30, probablement également, mais pas que. Sinon, à 22 ans, c'est une machine, quoi. Il sort de Bosnie-France et répondre cela, comme le dit notre auditeur, à la virgule près, alors là, chapeau.
Non, mais que ce soit préparé ou pas, quelque part, Philippe l'a rappelé, il dit, ça dit quelque chose de ce qu'il vit actuellement. Et effectivement, alors, la première réaction qu'on a tous eue, c'est de se dire, mais comme le disait Cindy, en Espagne, ça sera pire, en Angleterre, en Italie, etc. C'est une réalité. Mais peut-être que lui, de la manière dont il vit ça, et parce qu'aussi, là, il vit avec son entourage familial proche, il y a une pression qui doit s'exercer sur lui, ou en tout cas il ressent ça de manière plus forte parce qu'il est français et que certainement que s'il va à l'étranger, bah, ça le touchera moins parce que c'est pas son environnement qu'il a toujours connu.
Alors d'abord sur les critiques étrangères, c'est totalement faux ce que vous dites. La différence entre la France et les pays étrangers, c'est qu'en France, vous n'avez aucune presse supporter. La presse régionale ne supporte pas le PSG. En Espagne, il aura, s'il va à Madrid, les fans de Madrid qui le porteront à ONU.
Mais
et il se moquera de la presse
barcelonaise. En Italie, c'est pareil. Mais non, regarde, c'est la chose. Regarde ce qui est arrivé à Griezmann. Ils sont allés le suivre jusqu'à l'aéroport, jusqu'à sa voiture, en le poursuivant avec des caméras parce que ses performances n'étaient pas bonnes. Je veux dire, c'est documenté, ça.
C'est faux, c'est faux.
Ah bah non, c'est pas faux, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu partout.
Vous prenez un exemple qui vous arrange parmi mille qui vous arrangent pas. Moi, je prends la généralité.
De mémoire, la première saison de Benzema et même Zidane, ils ont été quand même particulièrement critiqués.
Oui, il y a eu trois mauvais articles.
Ça commence à faire trois, quatre exemples.
Ou Messi, à l'époque, en 2014, il a dû s'exprimer dans les médias et dire « Attention, c'est pas parce que j'ai dit ou j'ai fait un regard que forcément je suis pas content avec l'entraîneur. » Enfin, c'est les mêmes choses qu'on les critique ici. On lui critiquera là-bas aussi. Faut être
que ça les touche moins, ça peut être, ça je peux le comprendre.
Est-ce qu'il comprend l'espagnol déjà?
Bah, il commence à bien parler.
Non, mais je suis d'accord avec toi, David, sur ce côté-là, c'est important parce qu'une vie d'expatrié, on est moins au taquet sur l'actualité, le cousin qui va te dire tiens, regarde ce qu'il y a dans le Parisien, dans l'équipe, etc. Côté Espagne ou autre, t'es un peu plus dans une bulle, ça je suis d'accord avec toi. Une dernière chose sur Mbappé, pardon, Gilles. Moi je trouve que ça dénote quand même une forme d'usure. Il y avait l'usure physique où il disait en début d'année, j'ai l'impression de commencer une nouvelle saison avec 60 matchs. Et là, je trouve que dans son discours, dans l'interview avec Philippe, il y a une usure psychologique. Il y a une usure psychologique sur le côté où on sent finalement, pour moi, ce sont des fausses excuses en disant oui, je risque de partir à cause de ça, pas que ça, mais à cause. Et derrière, je trouve que il a d'une certaine façon son départ. Ça fait 4 ans qu'il est là, il a tout vu, il a tout connu avec le PSG. Il lui reste une campagne avec des champions. Ils vont peut-être aller en finale, peut-être la gagner, peut-être perdre contre le Bayern Munich. Mais derrière, il aura tout fait au Paris Saint-Germain. Et vous disiez tout à l'heure, excuse-moi, Christian, sur le côté bon ou mauvais départ, bon, mauvaise chose. Finalement, il aura tout fait avec le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Remporter la Ligue des Champions?
Non, mais c'est surtout qu'il peut partir gratuit. C'est ça l'inquiétude de moi aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il est libre.
Il partira pas gratuit. Non, il n'est pas libre. Il y a encore une année de contrat. Une saison, c'est quand même le nœud principal aussi du problème, c'est surtout de ne pas partir au bout du contrat.
Effectivement, ils vont peut-être baisser un peu les prix, mais il peut effectivement partir.
Je suis étonné, vous ne me parlez. Moi, je fais une analogie avec Thierry Henry. Thierry Henry, ça a été la même chose, il en avait assez à un moment donné des critiques, et il a fait ses valises.
Oui, ou Cantona avant, ou d'autres.
Cantona aussi, oui, c'est vrai, Cantona.
Parce qu'on leur critiquait, eux, c'était vraiment pas sur les plans sportifs, mais vraiment les attitudes, ce genre de choses.
Mais après, moi, je pense que c'est pas quand Thierry Henry part en Angleterre, là, il n'y a pas une presse de supporters.
Je pense que le cœur du problème, et ça a été évoqué auparavant dans l'émission, c'est la compétitivité du Paris Saint-Germain. Si ça, les critiques, c'est peut-être la goutte d'eau, mais si Kylian Mbappé a surtout le sentiment qu'avec le Paris Saint-Germain, il n'y arrivera pas parce qu'effectivement, l'effectif n'est pas assez riche à son goût, c'est ça l'élément central.
Non mais alors c'est pas
central.
Un leader, dans ces cas-là, je suis d'accord avec toi, mais dans ces cas-là, il faudrait dire que c'est pas un leader qui peut porter une équipe, y compris même quand l'équipe n'est pas au niveau.
Allez Gilles Verdez, et ensuite on parle avec Philippe Sanfourche, toujours en septaine, qui évoquera avec nous le Bayern Munich.
Moi ce qui m'a plu dans l'interview, c'est qu'avec sa sincérité juvénile, il fait une interview d'homme politique qui ne pratique pas la langue de bois, donc il s'exprime sur son ressenti, et il prépare intelligemment, spontanément les conditions. conditions de son départ. Effectivement,
oui,
il dit le PSG n'est pas assez bon. Il dit j'en ai marre des critiques. Il dit implicitement je serais sans doute mieux ailleurs. Donc c'est une interview fondatrice, à mon avis, l'an 1 de l'ère Mbappé à l'étranger. Parce qu'on l'a poussé à partir, eh ben, il va partir. Eh ben, on va
mais
pleurer,
non, mais
nous.
C'est tout à son honneur. T'as raison. C'est vrai qu'habituellement, on critique toujours les sportifs parce qu'ils font la langue de bois. Tout à son honneur de enfin s'est livré et dire en tout cas ce qu'il a sur les cœurs. Après, bon, moi je pense que ça lui servira pas forcément parce qu'à l'étranger aussi, on a entendu la réaction de Zinedine Zidane qui dit déjà attention, les critiques,
tiens,
c'est quand même logique.
Zizou
c'est logique,
parlé,
c'est normal. Donc voilà, il y a tout ça, il sait que ça va
mais
faire.
Mais Philippe a rappelé le contexte en préambule. Il y a aussi une chose importante, c'est que là, il sortait quand même de 10 jours en équipe de France.
Ouais.
En équipe de France, aujourd'hui, au sein du groupe de Didier Deschamps, on est quoi ? J'ai pas les chiffres exacts, mais on est quoi ? 80-90% de joueurs qui évoluent à l'étranger. Ouais. Donc je pense que pendant 10 jours, il y a Pogba, il y a Griezmann qui lui ont dit mais tu vas voir à Manchester, tu vas voir à Barcelone,
toi,
tu vas voir la Ligue 1, la première Ligue comparée à la Ligue 1. Qu'est-ce que tu t'ennuies à jouer contre Dijon et Nîmes, alors que nous, en première Ligue ou en Ligue 1, il se passera ça. Et je pense que ça aussi, c'est à prendre
ça
en compte dans son discours.
Le Bayern de Munich vient d'ouvrir le score. Goretzka, après 38 minutes de jeu, 1-0 pour le Bayern sur la pelouse de Leipzig. La transition est vite faite avec le match donc de mercredi. Alors, Philippe Sanfourche, à l'aune du résultat de ce soir, mais au-delà du résultat, du comportement, du jeu, je veux dire, non pas du comportement, hein, du jeu des Parisiens, ce match s'annonce périlleux, même si on va décortiquer après le jeu du Bayern avec ce résultat en cours, et même si Lewandowski, la force de frappe munichoise, est absente. Mais enfin, tu me diras que de l'autre côté, Verratti ne jouera pas non plus. Philippe.
Oui, exactement. À ce niveau-là, effectivement, je ne sais pas si on doit plus s'inquiéter côté Bayern de l'absence de Lewandowski ou côté PSG de l'absence de Verratti, mais on l'a encore vu ce soir, Marco Verratti est quand même la pierre angulaire du milieu de terrain et du jeu, de la création du jeu parisien. Et il y a beaucoup quand même de défaillance du côté des Paredes, Gueye, Herrera et compagnie. Donc ça, à ce niveau-là, c'est un partout la balle au centre. Maintenant, au niveau de l'implication, de la concentration, de la volonté de marquer les esprits et de marquer l'histoire du club, je pense que l'implication entre le match du Bayern et celui de ce soir, même si on peut le déplorer, elle sera absolument pas la même. Et on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, le PSG a réussi un match fantastique à Barcelone après avoir beaucoup déçu, que ce soit contre l'OM au Parc des Princes, Lyon ou la semaine suivante contre Monaco et ce soir Lille. Donc je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux. Maintenant, c'est clair que je pense que l'absence de Verratti rebat totalement les cartes. Effectivement, le PSG est bien moins créatif en l'absence de ce joueur.
Mais Philippe, tu l'as dit, sur ce coup-là, je suis complètement d'accord avec Philippe, parce qu'on le voit le match aujourd'hui. Alors Paredes ne jouera pas mercredi contre le Bayern, mais aujourd'hui, quand vous allez vous présenter avec soit Danilo Pereira, soit avec Gueye, soit avec Herrera, honnêtement, c'est pas un milieu digne d'un quart de finale de Ligue des Champions. C'est pas possible. Aujourd'hui, vous n'avez pas Verratti, et j'irai plus loin que Philippe sur le côté où l'absence de Verratti est beaucoup plus préjudiciable que celle du Bayern.
Ouais.
Parce que le Bayern de Munich, il y a un jeu collectif, on sent qu'il y a quelque chose, ça tourne bien. Là, côté Paris Saint-Germain, la lumière était complètement éteinte aujourd'hui.
Vous la sentez, la titularisation de Choupo-Moting,
déjà, il est titulaire.
Ça, c'est sûr qu'on risque de la sentir. Mais sur l'absence de Verratti, c'est vrai que théoriquement, on peut se dire ça. Après, il se trouve que l'effet, l'histoire, entre guillemets, dit autre chose. Parce qu'il a déjà été absent 8 fois sur les matchs décisifs du Paris Saint-Germain. Et le bilan, c'est 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc, on voit qu'il n'est pas indispensable, notamment parce que, évidemment, que c'est un joueur extraordinaire, évidemment que c'est un joueur merveilleux. Mais dans ce genre de match à pression, et on en a encore eu la démonstration cet après-midi, le Paris Saint-Germain fait parfois preuve d'une certaine nervosité, dont Marco Verratti n'est quand même pas le dernier des représentants. Donc, oui, bien sûr qu'il va manquer au cœur de la création. Après, bah voilà, peut-être qu'il sera remplacé même certainement par des joueurs qui ont d'autres qualités, dont notamment une certaine maturité émotionnelle qui sera peut-être précieuse à Munich.
L'inconstance dans le jeu également quand même de Marco Verratti. Alors ça s'est un peu amélioré avec Pochettino, avec un repositionnement et sans doute un discours un peu différent de Pochettino par rapport à ses prédécesseurs. Je regarde les images proposées par Canal+ sur l'entrée des joueurs au Parc des Princes, c'est très chaud, hein, avec Neymar qui veut vraiment et qui veut en venir aux mains avec un Lillois
Avec Diallo, qui est expulsé en fait en même temps que lui.
Voilà, et c'est extrêmement chaud donc dans les couloirs du Parc des Princes, où ça l'était, car ce sont des images qui ont été sans doute et même sûrement rediffusées.
Non, mais puis quand il lui prend la tête et tout, franchement, il est allé un peu loin.
Alors, ce match contre le Bayern Munich, il va falloir le gagner dès le match aller.
Bah non, c'est un match.
Oui, d'accord, il y a un match retour, mais dès l'aller.
Bah, vaut mieux parce qu'il y a les Wanderers.
Oui, non,
qui
c'est
peut...
Verratti, voilà, je saute du coq à l'âne. Verratti, l'affaire Pochettino. Enfin, voilà, Pochettino, ça n'a pas été quand même un modèle de constance dans tous ces matchs de Ligue des Champions. Alors là, bon, blessé, on en dit maintenant que c'est la pierre angulaire qui va manquer au Paris Saint-Germain. Vous ne disiez pas le même discours.
Ah, si, moi, si, toujours. Pour moi, Verratti, c'est vraiment les joueurs qui apportent de la verticalité au PSG. Je l'ai dit 20 fois ici. Et à chaque fois, je trouve, c'est assez confirmé. Il a parfois ses coups des moins bien, mais effectivement, on voit que quand il y a une équipe qui manque, il y a toujours des problèmes au milieu, toujours des problèmes aux défenses. Bah oui, effectivement, c'est un joueur qui peut apporter quelque chose et qui peut rendre les PSG dangereux.
Philippe,
et il faut oublier qu'on fasse. Oui.
Philippe Sanfourche, ça a été un modèle de constance, Verratti, en Coupe d'Europe.
Non, Marco Verratti, le problème, c'est que soit il est absent, soit il est blessé, soit il est en retour de blessure. Donc les matchs sur lesquels on peut réellement pouvoir avoir un avis objectif sur son potentiel, ils sont assez rares. Mais force est de constater quand même que quand il est en pleine possession de ses matins, bon. Ses moyens, il transfigure totalement le jeu. Et le PSG n'a plus du tout la même façon d'opérer. On voit que des joueurs comme Di Maria, comme Neymar, sont beaucoup plus libérés de la nécessité de revenir, de décrocher au milieu de terrain. Ils peuvent se concentrer sur les objectifs de différence en 1 contre 1 aux abords de la surface de réparation. Donc pour moi, Marco Verratti est un élément essentiel dans le jeu du Paris Saint-Germain et son absence est extrêmement préjudiciable.
Gilles Verdez. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'absence de Lewandowski, c'est un drame pour le Bayern. L'absence de Verratti, c'est conjoncturel. Le PSG est habitué à jouer sans lui. Si vous prenez le PSG en championnat, là, le PSG, il reste sur 3 défaites à domicile en championnat. C'est incroyable dans l'histoire du PSG. C'est presque Liverpool en Angleterre. Mais le PSG qui joue en championnat, c'est absolument pas le même que celui de la Ligue des Champions. Ils vont être transfigurés. Je vous trouve ici extrêmement pessimiste. Le PSG est supérieur au Bayern. Le PSG est favori. Mais si, vous dites oui, sans Verratti, avec ce Bayern, Lewandowski, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le PSG va être transfiguré face au Bayern. Ça va être un PSG
incroyable.
Soyons juste concrets. Qu'est-ce qui te permet de dire que le Bayern est inférieur au Paris Saint-Germain?
Mais le Bayern sans Lewandowski n'a plus de buteur. Ils vont mettre Gnabry en pointe. Ça va pas fonctionner. Vous verrez, le Bayern est orphelin de Lewandowski. Même dans les têtes, le Bayern a déjà perdu avant d'affronter le PSG. Bon, tout cas, alors que le PSG est habitué à jouer sans Verratti.
Quand tu regardes leur première mi-temps, je me dis non, mais c'est un match qui sert à rien. C'est juste le match pour le titre, pour la Bundesliga, mais ça sert à rien.
Non,
ça sert à rien. C'est vrai.
Il y a plusieurs points. Les PSG a certes pas beaucoup perdu à la maison, mais aujourd'hui il perd contre Lille à la maison, alors que ça fait combien d'années que les PSG n'avaient pas perdu contre Lille à la maison? Plus des 10, 20 ans, je ne sais plus. Enfin, c'est quand même énorme. Et là, quand on voit, je suis d'accord avec les faits que Lewandowski, c'est une énorme absence. Offensivement, il est génial. Mais attention, vous avez vu les matchs quand même. Vous avez, en équipe de France, vous avez vu l'effectif, comme ils sont armés. Après, la réalité d'un match entre aujourd'hui, comme ils ont joué et comme ils vont jouer en Champions League, on sait très bien que ça sera complètement différent. Et je pense que les PSG a des chances de gagner à l'aller. D'ailleurs, il faut qu'ils gagnent à l'aller, parce qu'on retour, ils risquent de retrouver les Lewandowski.
Mais aujourd'hui, personne ne dit qu'ils vont être éliminés dès le premier match.
Vous êtes très pessimiste.
On dit juste que factuellement, sans Verratti, ce sera plus difficile. Gilles, quand tu vois le match ce soir, excuse-moi, c'est compliqué de dire autre chose.
Parce que je voudrais qu'on parle également d'autre chose, tout de même, si on fait le match, et pas uniquement et de Mbappé dans la première demi-heure, puis du Paris Saint-Germain, mais après tout, c'est de ma faute. Mais le mot de la fin avec Philippe Sanfourche, et on parlera ensuite de Jean-Michel Aulas, du Qatar, et puis les tirs au but, évidemment, jusqu'à 20h.
Fatal au faible.
RTL Foot.
Les tirs au but.
Ça, c'est l'expression copyright, c'est l'expression de Gilles Verdez. Je la reprends à mon compte. Philippe Sanfourche.
Non, je crois que pour faire la synthèse, moi je suis d'accord avec Gilles sur le fait que la Ligue des Champions, c'est le seul et unique prisme. Quand on revient sur le débat Mbappé, en fait, la seule chose qui l'empêche de partir tout de suite du PSG, c'est de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions avec Paris, la ville de sa ville natale, là où il veut marquer les esprits. Il veut partir comme un seigneur en disant voilà, j'ai apporté la Coupe du Monde à la sélection française et maintenant j'offre une Ligue des Champions à un club français, je marque l'histoire. Donc en cela, la Ligue des Champions est dans toutes les têtes du Paris Saint-Germain. Maintenant, effectivement, on a quand même des doutes sur les capacités, notamment défensives, à pouvoir, sur deux matchs, offrir une vraie opposition au Bayern Munich. Mais bon, on va se régaler sur deux rencontres et c'est ça le principal.
Il y a des doutes également sur les capacités défensives du Bayern Munich. Donc là, pour le coup, au moins, ça fait matcher.
Enfin,
c'est vrai qu'on disait la même chose d'ailleurs au moment de la finale. La finale le Paris Saint-Germain l'a battu. Merci Philippe Sanpourche. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous dans 7 jours.
Oui, oui, oui.
Et encore, une fois, félicitations hein, pour l'interview événement.
Ah ouais.
Merci à lui.
Tel que l'a défini.
Il est modeste.
Il est modeste.
Les messages sur les. Non, mais ça, c'est le. Non, j'ai failli dire une bêtise. Les messages sur les réseaux sociaux. Le compte RTL Foot.
Beaucoup de messages sur ce Paris Saint-Germain-Bayern. Alors déjà, bon, faut rappeler que Jonathan David était blessé quand il a marqué les joueurs de Lille. Et du coup, Fred nous dit, bon bah en fait, le Bayern peut très bien faire jouer Lewandowski. C'est pas une blessure qui empêche de marquer contre le PSG. C'est terrible. Message d'Anthony aussi qui est tout aussi optimiste. Il nous dit, si on joue comme ça, en parlant du PSG, contre le Bayern, un record pourrait être très très bien battu. Je pense évidemment au 8-2 contre le Barça que le Bayern avait infligé. Il n'y a pas de vanne dans ce message. Axel nous dit, je suis en train d'imaginer notre milieu de terrain face au Bayern, les larmes coulent déjà, je fais des cauchemars où je me fais poursuivre par Goretzka et Kimmich. Message de Mathieu, mais c'est tellement propre, qui est un peu plus optimiste Mathieu, c'est tellement propre au PSG de changer de visage en 3 jours. Paris va battre le Bayern, j'y crois, dur comme fer.
Merci Baptiste, et à la mi-temps, donc le Bayern, c'est la mi-temps, mène sur la pelouse de la Leipzig par 1-0. Un petit point sur la Ligue 1, ça nous fait quand même une fin de championnat absolument exceptionnelle, mademoiselle, messieurs. Là, vraiment, ouais,
avec des rebondissements chaque journée.
C'est un bonheur, mais au petit jeu des pronostics, est-ce que vous pourriez, et à la vue de ce qu'on constate actuellement, est-ce que vous pourriez vous hasarder, non pas un pronostic, mais une tendance?
Bah voilà, tendance, je vois bien Monaco s'immiscer sur le podium.
Monaco,
quand on voit la
podium ou champion?
Sur le podium. Non, pas champion.
C'est facile.
C'est facile. Du coup, t'éjectes qui? T'éjectes Lyon, le Paris Saint-Germain ou Lille?
Non, mais ce qui est plus compliqué là, c'est
de finir sur champion.
Et David Ayello a une tendance lui?
Ah, je vais maintenir quand même Paris parce que Lille va quand même avoir encore un match face à Lyon. Donc bon, je pense que sur la durée, ça sera quand même Paris. Mais ça, je pense en revanche que ça va être très serré jusqu'au bout, ouais.
C'est Nicole Ménares.
Je mets une grosse pièce sur Monaco. Et d'ailleurs. Ah oui, non, mais une grosse pièce, pourquoi? Je trouve que vraiment, depuis que l'entraîneur est là, Kovac, je sais, c'est un peu haussé. J'aurais dit PSG, mais j'ai envie de prendre ces risques parce que je trouve qu'il a apporté énormément à l'équipe. Et c'est vraiment l'équipe en ces moments qui est en train de justement nous donner ces suspens, de nous réveiller. Ils ont fait un très bon match. Certes, c'était contre Metz qui ne ressemble pas au Metz habituel, mais voilà.
Si Paris élimine le Bayern, il laissera filer la Ligue 1 et ce sera Lille. Si Paris est éliminé par le Bayern, ils seront champions quand ils le voudront.
Bon, tout cela est enregistré évidemment et on ressortira non pas les bandes, mais on appuiera sur la touche, je ne sais pas laquelle. Damien,
par contre, le PSG champion.
Jean-Michel Aulas, roi du monde, mademoiselle, messieurs.
Carrément.
France Football de cette semaine, le consacre président. Meilleur président du foot professionnel depuis
de l'histoire,
1945.
Oui, pratiquement,
la guerre. Alors, il y avait 7 critères énoncés par nos confrères de France Football. La vision, le palmarès, la probité, la cote de sympathie, l'esprit bâtisseur et l'impact international. Sans oublier également la longévité. Alors, de façon un peu provocatrice, évidemment, je prolonge cette question. Est-ce que Jean-Michel Aulas est le meilleur président du monde?
Bah, du monde, non, parce que déjà, il a pas remporté de Coupe d'Europe.
Et puis, vous saisissez la subtilité de cette question.
Évidemment, mais après, oui, c'est vrai que quand on voit ce palmarès, on se dit, bon, on n'est pas surpris déjà, parce que c'est sûr que c'est qu'il l'a dit lui-même, avec tout ce qu'il a remporté, sa longévité, on se doute bien qu'il a sa place sur le podium. Après, le fait qu'il ait jamais, pour moi, remporté de titre européen, ça reste quelque chose...
Avec les sommes.
Pardon ?
Avec les sommes.
Oui, avec les hommes, effectivement.
Parce qu'avec les filles, il y a la
du coup, je pense que la question... Non, mais la question, du coup, je pense qu'elle porte sur le football masculin. Pour le coup.
Bah, pas exactement, finalement, parce que...
Bah ouais, alors, du coup, c'est biaisé, puisqu'on va comparer avec des présidents qui n'ont pas dirigé de filles. Donc, pour moi, on ne peut pas prendre en compte ce qu'il a réalisé et qui est exceptionnel avec les filles.
Justement, tout à son honneur d'avoir donné, d'avoir construit des équipes.
Mais en l'occurrence...
Mais ça fait partie d'un des critères, justement, la vision.
Au développement du football féminin en France, c'est lui. On peut
le
dire.
Alors, je retiens le palmarès, parce qu'il va falloir comparer quand même un peu avec les autres, le palmarès de Aulas, parmi les gros trophées, et les trophées, je parle masculin, désolé Cindy, 7 championnats de France, 2 coupes de France, 1 coupe de la Ligue, 7 trophées des champions, mais pas de coupe d'Europe. Le deuxième, ça va parler peut-être question générationnelle à Gilles Verdez. Henri Germain.
Ça va dire mal que Gilles. Alors, j'attendais des fourberies, mais pas de vous.
Ah non, c'est pas fourbe, c'est cash.
C'est vrai que pour le coup, c'est pour
les jeunes auditeurs qui nous écoutent, Henri Germain, président emblématique évidemment du Stade de Reims.
Oui.
6 championnats.
Ils n'étaient pas nés, mais ils étaient très forts.
6 championnats. Vous n'étiez pas né en 62?
Non.
Mais qui n'est pas né en 70.
Ah non, si je vous dis qu'il n'était pas né, c'est qu'il n'était pas né.
Il n'a
pas l'air surpris. Vous ajoutez l'offense à la fourberie.
6 championnats de France entre 49 et 62, 2 Coupes de France, 2 finales de Coupe de France, 56-59, mais 2 finales de Coupe d'Europe.
Coupe d'Europe,
56-59.
Contre le Real.
Et le 3e, alors là, vous pourriez en parler un peu plus facilement, Roger Rocher, 3e. 9 titres de champion de France, 6 Coupes de France et une finale de Coupe d'Europe perdue également.
Alors moi, c'est ce qui me choque. Je vais vous dire, pour moi, le grand président de l'histoire du football français, c'est Bernard Tapie, qui est classé, je crois, 18e, ce qui est une honte. Pour moi, parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Grande Coupe d'Europe, Bernard Tapie. Donc si le...
Mais à quel prix ?
Alors, ça, d'accord. Donc, à quel prix vous sous-entendez qu'il y a un problème de probité ? Bah, c'est ça que vous voulez dire.
Il a eu la note de 0. 0 sur 10.
Je ne sous-entends pas. Il se trouve qu'il y a eu un procès.
Donc d'accord. Alors, dans ces cas-là, pourquoi Roger Rocher, l'homme de la gastronomie, est troisième du classement ? C'est ça qui me scandalise, Christian. L'idée du sondage, elle est très bonne, mais la réalisation, Roger Rocher, troisième, la caisse noire, tout Saint-Etienne qui reposait sur la caisse noire, et Bernard Tapie, qui a été condamné, certes, 18e, ça ne va pas.
Alors, la probité pour Bernard Tapie, c'est 0 sur 10. La probité pour Roger Rocher, c'est 2 sur 10, quand même.
Bah, 2 sur 10. Mais alors, les autres critères, pourquoi Tapie n'est pas devant Rocher, très franchement.
Oui, je trouve la place de Tapie est effectivement injuste. Je le voyais vraiment, ça.
Effectivement, celle de Bernard Tapie est injuste. Et celle de
Tapie est derrière Rocher pour la vision.
Ouais, bah non, mais là.
Eh ben oui, je vous donne le classement des amis français de football. Hein, Rocher a 8 sur 10 pour la vision.
Et Tapie sur
la vision. Et Bernard Tapie a de mémoire 4 ou 5, je ne sais plus. J'ai mais là, 5, ça, 5
pour,
sur 10.
Pour le coup, là-dessus, on peut. Enfin, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'a apporté Bernard Tapie, c'est justement la vision. On rappelle que même, ce n'est pas seulement limité au football, puisqu'il a fait la même chose dans le cyclisme, mais qu'il a eu une vision, une approche du sport professionnel qui était révolutionnaire et peut-être même un petit peu trop avant-gardiste puisqu'il a pris des risques qui lui ont coûté très cher.
Mais vous allez être content pour le palmarès, il a 10 sur 10 Bernard Tapie.
Voilà, très bien. Mais non, mais qu'il soit 18e, Christian, ça me heurte. Je pense que moi j'aurais mis presque Tapie
à égalité avec Claude Bèze.
Non, moi j'aurais mis
qui n'était pas un monstre de probité également.
Absolument, mais pour moi c'est Tapie et Aulas, les deux grands présidents de l'histoire du foot français, voilà.
Bon, bah écoutez,
oui. Non, mais après c'est vrai que
je trouve le classement très intéressant.
Au global, c'est vrai que Jean-Michel Aulas, il a pas remporté de trophée européen, mais c'est vrai que au global,
il coche toutes les cases.
C'est difficile de dire de donner un autre nom. Quoi.
En tout cas, l'interview est délicieuse. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il montre effectivement Aulas qu'il sait aussi s'inspirer des meilleurs, notamment du Bayern Munich. Et quand vous demandez par exemple qui est le meilleur président au monde, moi je vous aurais dit plutôt les présidents du Bayern Munich, monsieur Karl-Heinz. Et bon, qu'annonçant que même monsieur Aulas vous indique qu'il s'inspire de ses clubs, parce qu'effectivement la gestion elle est géniale et depuis un certain temps, c'est vrai que c'est exemplaire. Et là je dirais, mais quoi qu'il en soit, monsieur Aulas est dans les podiums.
On va tourner une page de publicité. Gilles Verdez a quelque chose à dire sur qui Bernard Tapie
et Jean-Michel Aulas.
Et moi sur François Hévinec, président de Brest. La publicité.
Visionnaire.
RTL.
On refait le match.
RTL. On refait le match. Christian Olivier.
Dans On fait le match, et dans un instant, on parlera de Jean-Luc Mélenchon. On parlera des tirs au but également.
C'est On refait le monde ou On refait le match ?
Vous verrez. Les tirs au but également, On refait le match, suite et pas tout à fait fin. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, puis entre 20h et 23h, RTL Foot avec Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin et Raymond Abou, avec aussi l'intégralité d'un savoureux également. Quel bel après-midi. Après Monaco, après Lille, après le PSG, d'un savoureux Lens Olympique Lyonnais. Justement, Aulas donc, en tête du top 30 des présidents de Ligue 1, devant Henri Germain et Roger Rocher. Gilles Verdez voulait ajouter quelque chose sur Bernard Tapie toujours ?
Oui, alors, par rapport à Tapie et à Rocher, le grand mérite d'Aulas, c'est que c'est certain, il est encore là, mais c'est certain qu'il laissera son club en très bon état. Alors que des Tapie et des Roger Rocher ont laissé le club exsangue. Ça fait une petite différence en faveur d'Aulas. Une grosse différence. C'est la construction à long terme. Et un club qui a une pérennité financière sur Lyon, on en est quasi sûr. Voilà.
De votre point de vue, quelle est parmi les 7 critères proposés par France Football, quelle est la plus mauvaise note dans le critère recueilli par Jean-Michel Aulas ?
La cote de
sympathie peut-être.
Oui, la cote de sympathie.
Bah oui, ça m'étonne pas. Ouais,
parce 6 sur 10.
Il a mais s'il avait été plus sympa. Non, mais il faut savoir aussi, s'il a réussi autant, c'est parce qu'il a eu parfois la force de s'opposer ou d'être un peu la voix divergente dans ces milieux où il y a beaucoup quand même des personnes qui se mettent d'accord, des présidents des clubs. Notamment quand il y avait l'histoire des arrêts des matchs, il a eu le courage de dire non, moi je ne trouve pas qu'ils doivent arrêter les matchs et il n'a pas tout, tout à fait tort parce que là on joue
Pour moi, ça c'est le point justement qui fait que sa cote de sympathie est bonne, c'est que tout au long de sa carrière de président, Jean-Michel Aulas a systématiquement défendu son club, y compris contre l'intérêt général. Et ce qu'il a fait lors de cette période que tu évoquais, c'était justement pour défendre Lyon, parfois même jusqu'au ridicule. Souvenez-vous de sa proposition de play-off, par exemple.
Alors que justement... il n'a pas été visionnaire.
Non, il n'a pas été visionnaire.
Et pourtant, il a 10 sur 10.
Bah oui, écoutez.
Si, alors, je vous donne les notes. La vision de Aulas, 10 sur 10. Mm-hmm. Le palmarès, 10 sur 10. La probité, 8 sur 10.
8 sur 10 en probité.
Bah, ouais. C'est par rapport au coup de pression des arbitres, parfois.
Ah, oui, voilà, c'est le comportement. Oui, oui.
La cote de sympathie, on l'a dit, 6 sur 10. L'esprit bâtisseur, il aurait pu avoir 12 sur 10, franchement. Là, pour le coup,
c'est
10 sur 10. L'impact à l'international, 8 sur 10.
Très présent dans les institutions.
Oui, alors d'aucuns disent qu'il fait croire qu'il est très présent, mais qu'on écoute quand même davantage les présidents du Bayern, de la Juventus Turin, du Real Madrid, que de l'Olympique.
Mais justement, je pense que ce qu'il arrive à faire avec un club qui, effectivement, déjà en France, et n'a pas forcément tous les meilleurs résultats au niveau national, c'est déjà pas mal, parce qu'arriver à se faire entendre en tant que président de Lyon au niveau international, il existe déjà. Après, évidemment qu'il n'a pas le poids du Bayern, de la Juve ou du Real, mais je trouve que c'est déjà pas mal.
Et la longévité, il est là depuis 1987.
Ouais. Et il a essayé de se retirer, parce qu'on l'a vu parfois
10 sur 10, la longévité.
On a essayé parfois, il s'est mis un peu en retrait, on se rend compte, mais à chaque fois, ce n'est pas lui forcément qui veut revenir, c'est qu'il est, mais on l'appelle limite, parce que ça devient... tellement incompréhensible parfois la gestion quand il n'est pas là, qu'il est amené à revenir.
Palmarès, Aulas, 10 sur 10, vous avez dit ? Donc ça, c'est
palmarès,
là.
Non, palmarès, non.
Si palmarès, 10 sur 10. Comme critère, vous avez Nicolas, ça 10 sur 10 pour Palmarès.
Oui, oui.
Mais alors, c'est la prime à la perte de la Ligue des Champions, alors. Comme il n'a jamais gagné Coupe d'Europe, il a 10. Ça n'a pas de sens.
Il ne peut pas avoir 10 sur 10.
Bah non, il ne peut pas avoir la même note que Bernard Tapie, dont vous avez dit qu'il avait 10 au palmarès, alors que Tapie a gagné la Coupe en 1993, la Coupe d'Europe, et on ne l'a jamais
fait.
Vous êtes d'accord là-dessus ?
Oui. C'est pas faux.
C'est quelques petites incohérences.
Ce n'est pas faux. Mais c'est un top 30 qui s'est causé la preuve depuis un quart d'heure.
Ah oui, c'est sûr.
Oui, je vous donne le classement. Aulas en numéro 1, Henri Germain en 2. Vous m'interrompez, si vous voulez avoir une note concernant les profils de ces présidents. Roger Rocher en numéro 3. Louis Fontenot, président du FC Nantes, emblématique FC Nantes de José Arribas à l'époque, en numéro 4. Jean-Louis Campora, président de l'AS Monaco. Nasser El Khelaïfi en numéro 6. Michel Sédou en 7, alors Lille. Louis Nicolin, puis Michel Denisot, puis Jean-Louis Triot, puis Jean-Claude Hamel. Jean-Claude Hamel, le président de la JOCR. Ensuite Gervais Martel, Racing Club de Lens, Carlo Molinari, Francis Borelli, puis un petit peu plus loin, 17e place Noël Le Graët, 18e Claude Bèze à égalité avec Bernard Tapie.
Non, mais c'est vrai que Bernard Tapie 18e, vu les noms que vous avez évoqués avant,
c'est une sanction, c'est la longue histoire compliquée de Bernard Tapie avec France Foot, je pense qu'il rejaillit, ça me paraît pas tout à fait clair cette affaire.
28e Daniel Echter.
Il y a quand même des personnalités assez colorées, comme celui de Montpellier, Nicolas.
Oui, bien sûr. Et le 30e, François Hévinec, qui était un charmant monsieur, François Hévinec, président du stade de Brest,
qui a fait venir
mais des joueurs et des joueurs, les Vincent Guérin, les David Ginola, les Bernard Lama sont venus, les
José Luis Brown,
champions du monde, etc. Et la fameuse histoire Roberto Cabanas, privé de passeport par la mafia colombienne, et qui était dans un hôtel. François Hévinec est venu en Colombie pour tenter d'enlever Cabanas, mais lui aussi a été privé de passeport. Il nous faisait, François Hévinec, une chronique quotidienne tous les matins sur RTL. Il nous appelait en disant « Je ne peux pas quitter les lieux, pour l'instant, je n'ai pas de passeport. »
Sacré personnage.
Et seulement 4 sur 10, cote de sympathie pour François Hévinec, qui méritait un 10 sur 10. C'était un type charmant. Je me souviens de belles soirées dans le bas de la rue de Siam, au restaurant Les Mouettes à Brest, où on buvait des coups jusqu'à plus tard avec François Hévinec. Il a perdu son argent, il a a perdu son entreprise et effectivement ensuite il a perdu un peu le club parce qu'il est parti dans des dépenses somptuaires qui ont perdu malheureusement le club brestois. François Vinet qui est en Espagne maintenant du côté de Calpe et qui ces dernières années peignait, artiste peintre.
Ah ben voilà,
aussi bien que Van Gogh ou pas?
Peut-être pas la même que Van Gogh, vous êtes méchant. Le Qatar. Alors Jean-Luc Mélenchon, 18h chez l'ami Soto jeudi soir, réclamait un boycott de la Coupe du Monde au Qatar. On ne peut pas jouer au foot sur les cadavres, disait notamment le président de la France Insoumise. Alors on n'est pas là évidemment ce soir pour faire de la politique, mais on pourrait aussi parler de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis politiques en Amérique du Sud. Hein. Quand il y a un match aller, il faut qu'il entende le match retour. Ses soutiens sont quand même pas extraordinaires. Ça a été Fidel Castro, ça a été Chavez, ça a été Maduro, qui ne sont pas des exemples de démocratie. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais...
Oui, mais c'est important ça, Christian. Là-dessus, vous avez tout dit, parce que finalement, il y a fin du débat. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui dit ça sur le Qatar, qui intime finalement l'ordre à l'équipe de France en disant « Non, bon, ça ne me regarde pas, mais finalement, il ne faut pas qu'ils y aillent. » Et que derrière, vous soulignez finalement les... Bon, on va pas dire les soutiens, mais en tout cas l'appétence de Jean-Luc Mélenchon pour ces personnalités-là.
Et donc ces incohérences.
C'est pire que ça. C'est pas crédible, ce n'est pas un ordre. C'est que c'est trop tard pour les dire. Ça fait un peu démagogique parce qu'il peut dire ça pour se donner une bonne conscience ou une bonne forme, mais en réalité, les faits, c'est qu'il a soutenu par ailleurs des dictatures, Maduro, il ne s'est pas vraiment détaché de lui. Donc lui, il dit qu'on ne peut pas jouer sur des cadavres, mais ce qu'on peut, en tant que politicien, marcher sur des prisonniers de politiques qu'on est au Venezuela à 320. C'est ce genre de choses aussi qu'il faut prendre en compte. Et de toute façon, ils iront quand même. Donc à quoi ça sert en fait?
Non, mais je rappelle que si Nicole Ménarès est française d'origine vénézuélienne, donc elle parle comme une experte. Et c'est vrai que dans ces pays-là, et même encore actuellement, il y a des gens ou qui sont en prison ou qui ne peuvent pas s'exprimer,
ou avec des
partis qui ne peuvent pas exister,
des anons politiques, des fenestrés, des prisons politiques,
des gens qui crèvent de faim également.
Mais
enfin, oui. Voilà.
Non, mais là il est allé sur un dossier qui, à mon avis, on peut pas parler sur les
politiques sont les rois de la récupération. Non,
mais exactement, c'est de l'opportunisme. Il pouvait tout simplement dire je ne veux pas m'exprimer en 2 minutes ou en 30
Meilleur
secondes
que Verratti.
sur un dossier aussi complexe, parce que la réalité c'est quoi? C'est que peut-être qu'il y a il y a beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde au Qatar, mais il y en avait également sur la Coupe du Monde en France en 98, il y en avait sur la Coupe du Monde en Allemagne en 2006. Alors, ce n'est pas les mêmes problèmes, mais il n'y a aucune organisation de Coupe du Monde de compétition internationale, y compris en Chine, qui s'est passée de manière propre. Donc, si on veut commencer à mettre le doigt à pointer les failles des organisations et des attributions des compétitions internationales, allons-y, mais faisons-en de manière globale en disant, voilà, il y a un problème avec les JO en Chine, il y a un problème avec la Coupe du Monde au Qatar, mais on ne peut pas comme ça d'un seul coup débarquer et aller dans un dossier comme
Gilles
celui de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar.
Vous êtes étrangement absent du débat. Non. Vous reconnaîtrez que Jean-Luc Mélenchon et ses amis, les amis plutôt de Jean-Luc Mélenchon, ne sont pas des modèles de vertu.
Alors pour moi, ça, ce n'est pas du tout le débat. Excusez-moi, mais ce n'est pas parce qu'il y a des drames quelque part qu'il faut fermer les yeux sur des drames ailleurs. Donc ce n'est pas parce que Mélenchon soutient d'éventuelles dictatures sud-américaines dont on peut discuter, qu'il faudrait fermer les yeux sur ce qui se passe au Qatar.
Il n'y a pas de palmarès
ou des ouvriers.
Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Des drames à ce moment-là.
Oui,
donc ça pour moi, c'est pas un bon argument. En revanche, je trouve que s'il avait fallu ne pas aller au Qatar, c'était avant. C'est-à-dire que pour moi, le scandale, c'est l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, dont on sait très bien que c'est vérolé, comme d'autres.
Donc,
mais celle-là, peut-être plus que d'autres. Et deuxièmement, moi, je suis d'accord que la France n'aille pas au Qatar si l'État français rompt ses relations diplomatiques avec le Qatar sur l'autel des droits de l'homme d'une discussion internationale. Mais là, on ne va pas demander aux Bleus de prendre toute la charge émotionnelle, politique, économique. Nous n'allons pas...
C'est toujours le sport qui traque.
En 2020, il y avait des accords culturels très forts entre le Qatar et la France, alors qu'ont pas été menés à leur terme parce que le coronavirus est passé par là. Il y a aussi des échanges économiques
extrêmement forts,
très forts, dans le tourisme, les hôtels, etc.
Mais oui, mais il aurait pu le dire aussi.
Mais je suis d'accord.
Et pourquoi il a pas interagi?
Je suis d'accord avec Gilles sur le côté équipe de France. Je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle de déplacer le débat et de mettre finalement indirectement ou directement, je sais pas quelle est l'attitude de Mélenchon, mais une pression sur l'équipe de France, parce qu'aujourd'hui l'équipe de France sort de 10 jours de rassemblement, il n'y a pas eu de message, etc. Et en fait, il est en train de dire, si vous ne faites pas ça, finalement, vous êtes des mauvais citoyens. Mmh. Donc non, ce n'est pas à l'équipe de France de régler ces problèmes-là.
De toute façon, le terme boycott,
une pression que lui-même n'accepte pas, parce qu'à chaque fois qu'on lui pointe du doigt, parce que lui, ses soutiens, etc., il est pris très, très, très mal. Donc dans ces cas-là, soyons clairs, je suis d'accord que les drames humains, il n'y a pas un qui est pire que l'autre, mais là, aujourd'hui, cette intervention arrive un peu tard et me paraît un peu opportuniste.
Bon, on n'est pas là pour faire le procès de Jean-Luc Mélenchon, non. Bien évidemment. Voilà, c'était sur RTL jeudi soir, 18h. Mais finalement, on devrait faire, en bon démocrate que nous sommes, on devrait faire disparaître du dictionnaire le mot boycott. Car de toute façon, le mot boycotter quelque chose, c'est forcément toujours contre-productif.
Ça ne marche jamais en sport, ça n'a jamais marché. Les boycotts des Jeux Olympiques, ça n'a jamais marché. Et puis s'il fallait boycotter quelque chose, c'était la Coupe du Monde en Argentine
78,
avec Videla.
De Videla,
Videla.
C'est un débat qu'on a eu lieu, qui a déjà existé
et
ici.
J'ai retrouvé les archives, vous parliez de ce qui était arrivé à Hidalgo, qui avait une tentative d'enlèvement. Il n'y a que Rocheteau, Dominique Rocheteau, j'ai regardé, qui s'était élevé en disant il y a une dictature. Mais il y est allé. Et Battenay, le summum des déclarations, c'est Dominique Battenay, le grand défenseur aujourd'hui, qui avait dit nous, on n'y va pas pour les beaux yeux de la princesse, on n'est pas là pour le beau jeu, sous-entendu, quoi qu'il se passe dans un pays, on y va, etc. Ça, c'était scandaleux.
On peut tenir un discours Et c'est l'occasion d'ailleurs, mesdames et messieurs, de parler de ce qui ne va pas dans le pays qui organise une telle compétition.
Plutôt que le boycott, alors ça ne veut pas dire que si on ne boycotte pas, on ferme les yeux, mais au contraire, y aller, c'est aussi dire bon, ben voilà, il y a des problèmes dans ce pays, il y a eu des problèmes au niveau de la construction des stades, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus. Ça, c'est des choses intéressantes. Et ce n'est pas le boycott, au contraire, le boycott, c'est retirer la lumière de ce pays. Au contraire, on veut mettre la lumière et on veut, quand je dis on, c'est la communauté internationale, on veut les aider à grandir et à évoluer.
Ça ne marche pas toujours, ça. Hein. Les Jeux Olympiques Chine n'ont pas fondamentalement fait avancer la cause.
Est-ce que si on n'était pas allé, ça aurait changé quelque chose?
Et Gilles Verdet, je vous donne un autre exemple. Oui. Les Jeux Olympiques de Séoul 1988, ce n'était pas une démocratie, la Corée du Sud, avant ces Jeux 1988. Et on sait ce qu'il est advenu derrière. Et on a parlé, effectivement, les journalistes ont parlé de ce qui n'allait pas à l'époque à Séoul. Et maintenant, la Corée du Sud est une démocratie.
Après, on oublie parfois que pour ceux qui ont vécu des dictatures, ce qui est mon cas, j'ai vécu en dictature au Venezuela. Cela, ça nous permet aussi parfois de nous changer les idées, d'avoir des matchs, autre chose qui nous décolle un peu de ces quotidiens qui est parfois invivable. Ça nous permet parfois de fêter. Donc, toutes ces choses-là, on a tendance à les oublier, mais elles sont aussi importantes.
Oui, alors ça, c'est l'expression du pain et des jeux. C'est-à-dire que le régime de Videla en 78, général sanguinaire, dictateur, qui tuait et torturait à quelques mètres du stade national de Buenos Aires, eh bien, a profité aussi, tout de même, pendant que le peuple jouissait de la victoire de son équipe championne du monde.
Mais
le régime de Videla en a profité.
Ils savent toujours récupérer. Ça, il faudrait l'admettre, c'est triste, mais c'est toujours comme ça. Regardez Pelé, quand il jouait, on lui a aussi critiqué les faits qu'il était pas en mauvais contact, on va dire, avec les présidents. On lui disait, ben voilà, tu pourrais avoir un rôle s'il a joué.
Il n'a jamais voulu s'engager, d'ailleurs,
Pelé. Il ne s'est pas mêlé.
On lui reprochait justement de soutenir indirectement la...
Il ne le soutenait pas, c'est juste qu'il a voulu rester. Mais il voulait rester vraiment en dehors. Et c'est parce qu'ils comprennent, ces sportifs, que pour les pays, c'est intéressant. Et si aujourd'hui on parle du Brésil, c'est grâce à lui, en fait.
Alors, attention, il y a juste... Là où Mélenchon, qui quand même sent parfois les choses, peut éventuellement ne pas parler dans le désert, c'est que l'équipe de Norvège a déjà dit « Nous, le Qatar, c'est pas pour nous. » Si certaines sélections commencent à protester... S'il y a une levée de bouclier sportive, là, il y aura une réflexion.
Oui,
si certaines sélections disent...
Mais pas en termes de boycott, en termes de... Comment dire de,
c'est pour, trop tard pour boycotter.
Tony Kroos, l'international allemand, a dénoncé également ce qui se passait au Qatar.
Si la Norvège se qualifie, est-ce qu'ils iront? Voilà la question. Si une sélection commence à décliner l'invitation, là, il y aura une réflexion globale.
Et la réflexion globale, c'est aussi de se dire les joueurs allemands ont porté un message human rights, sachant que la moitié de l'équipe d'Allemagne joue au Bayern Munich, dont le sponsor est Qatar Airways. Donc la réflexion, elle est globale. Et à un moment aussi, il faut intégrer tous les paramètres, y compris ceux économiques.
On a tout dit.
C'est un formidable sujet. De toute façon, ça va nous occuper jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar, si elle se joue.
Si elle se joue.
Elle se jouera.
On rappelle que Noël Le Graët, président de la Fédération, lui a dit, quoi qu'il arrive, on ira jouer au Qatar.
Pas de politique.
pas de politique. Et avec le président de la fédération, pas de débat.
C'est ça.
19h et bientôt 46 minutes. On va tourner une page de publicité. J'interroge Damien à la réalisation, tout va bien. Et un quart d'heure de tir au but. On va peut-être faire un peu plus long que prévu, mais j'ai un excellent sujet. Je rappelle le principe pour tous ceux qui nous rejoindraient, qui découvriraient On refait le match. De mon point de vue, il doit y en avoir de moins en moins tout de même. Franchement, on a un socle d'auditeurs extrêmement nombreux et qui nous écoutent depuis maintenant des années. Oui, des fidèles et des fidèles et des années et des années. Les tirs au but, donc le principe, questions d'actualité, questions qui n'ont pas été soumises, bien sûr. Vous attendez le coup de sifflet de l'arbitre et les plus faibles sont éliminés.
Très vite, ça se voit très vite.
C'est on fait le match avec Gilles Vernez, avec Baptiste Després, avec Cindy Colmenares et avec David Ayello. À tout de suite.
RTL. On refait le match. On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
On fait le match. Les tirs au but, Cindy Colmenares, David Ayello, Gilles Vernez, Baptiste Després. Une question d'actualité, vous n'en connaissez pas le contenu, le coup de sifflet, le premier peut dégainer sur le sujet, bien évidemment. Et il y a toujours une question Ligue 2. Car la Ligue 2, c'est pas que c'est de mieux en mieux, mais c'est mieux. C'est mieux que tout, la Ligue 2, désormais. Et donc, je suis, évidemment, vos connaissances sur la Ligue 2, ou en tout cas, votre intérêt, car la connaissance, vous l'avez, mais votre intérêt hebdomadaire pour la Ligue 2. Question Ligue 2. D'ailleurs, le résultat de... Vous le connaissez, hein, le résultat de cet après-midi. Je sais pas la question, hein. Vous connaissez
le résultat. On était sur la Ligue 1, là.
Oui, mais combien?
4-1 face à Nancy.
Face à Nancy. Justement. Écoutez bien. Là, je prends des notes.
Hein. Alors, Toulouse.
Et je lis ma note. Quel est le rapport entre Toulouse...
Oh là là. Comment ça part bien.
Ça part bien.
Là, c'est la perversion.
Fin d'émission. Quel est le rapport entre Toulouse, Liverpool...
Oh là là.
...et la star de la NBA, LeBron James.
Toulouse, Liverpool...
LeBron James, hein.
Est-ce que c'est comme Beto Marsico, il a acheté une pizzeria à Toulouse? Non, ça n'a rien à voir.
C'est économique.
C'est économique.
Le marketing?
Oui, si vous voulez, puisque c'est économique.
Ah bah, ça pourrait être d'autres parties économiques.
Le marketing n'est pas...
Est-ce que ça a à voir avec les couleurs?
C'est pas associatif. Là,
on a les violets et les reds. Non, c'est pas ça a rien à voir avec les couleurs.
Non, c'est une question...
La vente de produits dérivés?
Non.
Ah bah, c'est une personnalité. J'essaye.
C'est une personnalité?
Mais oui, mais alors, si vous ne suivez pas l'actualité...
Bah écoutez, celle-là nous a échappé.
Les bonnes gens. Qu'a-t-il fait là ces derniers temps?
LeBron James?
Oui.
Il était blessé.
Oui, d'accord, mais on parle pas de sport ici, dans cette émission.
Excusez-moi.
LeBron James a acheté, est monté en gamme et a acheté des parts dans l'actionnariat de Liverpool. Ok?
D'accord. Il a acheté Toulouse aussi? Il a acheté des parts à Toulouse?
Pas LeBron James.
Un autre basketteur américain?
Non, alors.
Ah, il y a des Américains, ceci dit, à Toulouse.
LeBron James est actionnaire de Liverpool.
Oui.
Le propriétaire de Liverpool est également le propriétaire du Toulouse Football Club. Est-ce que vous le saviez, ça?
Non.
Ben oui, mais...
Ah, je vous dis, non, humblement...
Il faut lire la presse économique.
Ah, ouais. Alors là, vous me...
Ouais, vous voyez, vous nous...
Moi, je la suis attentivement et je lis les pages roses du Figaro.
D'investissement mais... américain.
Oui, ça, je savais, mais je ne savais pas que c'était le même.
Fenway Sports.
C'est le même. Ouais. Vous êtes sûr de ça, là?
Ah, mais je suis certain.
Le chef est toujours sûr.
Okay. Non, le chef n'est jamais sûr.
Non, le chef a toujours raison.
Jamais.
Il a toujours raison. Il a toujours raison, c'est vrai. Et parfois,
une
différence importante.
Vous commencez à mettre le doute, là.
Eh oui! Vous n'allez pas être le plus faible des faibles quand même. C'est pas possible. Ça.
Non. Donc, il n'y avait personne pour répondre. Vous pouvez vérifier.
Mais attends, si c'était faux, c'était.
Je sens dans quelques jours le papier à venir dans le Figaro.
Chef, c'était pas le 1er avril. Vous n'avez pas vu ça le 1er avril.
Non, mais ça m'a étonné. Voilà. Okay. Très franchement, je l'ai appris en lisant également la presse économique et ça m'a étonné. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah tiens, là, un peu moins souriante, mais je voulais évoquer cette actualité-là. Et puis finalement, c'est pas là pour le coup, oui, non, etc. Je souhaiterais que vous me donniez votre avis. Puisqu'il y a eu un hommage à Pape Diouf cette semaine. Et d'ailleurs, plusieurs hommages à Marseille, disparu, vous le savez, il y a un an, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Il y a le lancement d'une fondation. Il y aura peut-être d'ailleurs aussi une station de métro à son nom, ou en tout cas un espace public associé au nom de Pape Diouf. Alors, c'est donc pas une question clivante que je vous pose, mais au coup de sifflet, j'aimerais que l'un de vous, le plus rapide, me parle de Pape Diouf.
Pape Diouf, c'est quelqu'un de charismatique, d'abord journaliste, devenu agent, avec, pour le coup on parlait de vision, avec une vision du joueur, à un moment c'était une vision du joueur noir, parce que les joueurs noirs étaient traités comme de la marchandise, n'avaient pas des émoluments à hauteur de leur talent, vivaient de très mal du football. Donc il a rendu ses êtres de noblesse au football, au transfert des joueurs, notamment africains. Puis après, il avait ce qu'on appelle un catalogue, mais dans le sens noble du terme, c'était pas de la marchandise justement pour lui, les joueurs. Donc il a humanisé les transferts de joueurs et créé des liens, comme par exemple avec Marcel Desailly, presque des liens fraternels. Il représentait des joueurs, mais avant tout des hommes. Et dans le football, c'était, je trouve, un humaniste. Voilà, pour moi, ça restera ça. Un homme d'honneur, un humaniste. Moi, j'ai eu des conflits éditoriaux avec lui forts, mais toujours avec le respect des autres. C'était vraiment un sage, voilà. On aurait dit de lui que c'était un sage.
Merci Gilles.
Gilles a dressé un portrait très juste de Pape Diouf à Jean. Donc du coup, je vais me pencher plus sur la partie président, parce que ça a été aussi un très grand président de l'OM. Et justement, je trouve qu'il a su, c'est quelqu'un qui est arrivé. Il n'est pas né à Marseille, il est arrivé à Marseille. Il a franchi tous les échelons à Marseille. Je crois qu'il a commencé à La Poste. Ensuite, il a travaillé au journal La Marseillaise. Ensuite, voilà, il a été agent de joueur, puis président de l'OM. Il a eu l'ascenseur social à Marseille, dont beaucoup rêve. Il a été un symbole pour beaucoup. Et il a su, surtout, parce qu'on n'a pas réussi tous les présidents de l'OM, loin de là, comprendre le peuple marseillais. Et ça a été quelque chose qui a perduré, qui a fait ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un personnage incontournable de l'histoire de l'OM.
Et il lui rend très très bien, parce que quand là, il y a eu les conflits tout récemment avec Jacques-Henri Hérault, bah, quels sont les noms qui revenaient les plus parmi d'autres? C'était Pape Diouf, parce qu'on disait vraiment, c'est quelqu'un qui a compris les supporters, ne se les a pas mis à dos, mais au contraire, vraiment, il voulait, il disait, on voudrait encore un président comme Pape Diouf.
Alors, palmarès et sans trop de longévité, il aurait sans doute mérité une petite
bien
place.
Sûr.
Alors, je sais plus quel type de place, c'est difficile à dire, mais dans le top 30 de nos amis de France Football.
Mes camarades ont tout dit finalement sur Pape Diouf. Moi, c'était vraiment son phrasé, son éloquence, sa forme d'intelligence. Aussi. Je rejoins ce que tu disais, David, et puis Gilles là-dessus. À chaque fois qu'il intervenait à la radio, à la télévision, même en presse écrite, quand on avait la chance de faire une interview avec lui, c'était un bonheur parce qu'on pouvait parler de football, mais on pouvait parler d'autres choses, bien entendu.
Non, ça,
et de
fabuleux,
beaucoup d'autres
ça.
Choses. Ah, comment
la
phrasé, l'éloquence qu'il avait, c'était
bien
Pape Diouf, honnêtement, aujourd'hui, c'est très, très rare. Il y a pas un président de Ligue 1 qui.
Je voulais qu'on lui rende hommage.
Au Sénégal, il y a eu de très grands hommages aussi. Il y avait Marseille et le Sénégal presque en même temps. Il y avait la similarité des.
Vous avez été
hommages.
Parfait et parfaite. Merci pour lui et son entourage, sa famille et son épouse. On revient au sport. Préférez-vous l'équipe de France de football de Didier Deschamps, sans trop de panache, mais qui gagne, ou l'équipe de France de rugby qui perd, mais devant laquelle, alors là, tout le monde tombe en pamoison.
L'équipe de France.
Éliminée.
Non,
vous n'avez pas
c'est
entendu
pas vrai.
Le siffler.
C'est la faiblesse mentale.
Voilà,
il n'y a pas photo. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'équipe de France de football. Alors oui, effectivement, on dit sans panache. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec l'Allemagne contre la Macédoine, voire d'autres nations de sélection nationale. On est dans un entre-deux. C'est un peu difficile avec des déplacements, avec des voyages. Aujourd'hui, honnêtement, l'équipe de France, moi, ça reste un régal de les voir. Alors, je m'ennuie parfois. C'est difficile sur certains matchs parce qu'il y a la comparaison avec la Ligue des Champions, qui est la sommité aujourd'hui en termes de niveau. Mais je prends toujours plaisir à voir cette équipe de France. Et en comparaison avec les... Je ne sais pas si on peut comparer l'équipe de France du rugby. Non, finalement, non, mais
on peut, mais. Non, mais pour moi, la France des années 80 qui célèbre les poulies d'or et les deuxièmes et les beaux perdants, c'est fini. Il y a eu France 98, il y a eu 2018, il y a eu plein d'autres grands champions qui ont gagné. On n'est plus dans cette dynamique-là. Alors évidemment qu'il y a toujours ce panache qu'on aime bien avoir en plus, mais on veut des équipes de France conquérantes et qui s'imposent.
Alors je suis d'accord et je reste fan des Bleus et de Deschamps, quels que soient les matchs. Et pour moi, le plaisir, c'est une notion tellement aléatoire que je ne la retiens jamais. Mais il se passe quelque chose avec le rugby. Regardez les audiences phénoménales à la télé des matchs de rugby. Il ne faut pas négliger ça parce qu'ils commencent à regagner et ils enthousiasment les gens.
7 millions de téléspectateurs de mémoire.
Oui.
De mémoire.
Non, mais la victoire
un samedi soir.
Ah, oui.
Un samedi confiné.
Ah, oui, oui.
7 millions.
Bah, c'est énorme.
Ouais,
c'est pas la Coupe du Monde, c'est le tournoi.
Pour le football. Un jour en semaine,
oui.
6 millions.
Oui, mais Christian,
avec une vraie stabilité des audiences pour les équipes de,
oui,
pour l'équipe de France.
Ils ont fait des vendredis et des samedis avec des blockbusters en face où le rugby a fait franchement des audiences phénoménales.
Allez, le pénalty est à retirer une deuxième fois.
Non, les rugby aussi, ce qui était intéressant, c'était, je ne sais pas si vous avez regardé la fin des matchs, mais avec l'émotion qu'on a eue à la fin, avec cette victoire arrachée. Mais l'équipe de France, il faut les savoir, c'est parce qu'ils sont orientés résultat qu'ils sont champions du monde. Et c'est ça qui est important. Mais j'aurais quand même espéré, et j'aurais aimé que les joueurs prennent en compte qu'on vit une situation très difficile en France et que quand on regarde les matchs de l'équipe de France, pour nous c'est important aussi, surtout en ces moments, de vivre, d'avoir des émotions, et je pense qu'il faut qu'ils les prennent plus en compte.
Prochain tir au but. L'UEFA autorise désormais les 5 changements par match à l'occasion de l'Euro 2021. Ce sera au mois de juin prochain sur l'antenne de RTL. 5 changements. Décision logique, vu le contexte, ou sorte d'américanisation, je l'ai bien dit ?
On a tout compris.
Américanisation, ouais,
oui. Oui.
De notre football, de notre vieux football, de la vieille Europe.
Non, eh ben, c'est l'américanisation. L'américanisation.
Voilà pourquoi j'ai voulu faire un
c'est votre côté breton, je pense qu'il y a cet accent breton.
Américanisation.
Ouais, voilà, américanisation. Non, c'est l'américanisation parce que le charme du football, c'est tout ce côté stratégique, les 3 changements, le hors-jeu, il y a tout un tas de paramètres qui le rendent. Ça se joue toujours sur un fil. Et là, le fait d'introduire ces 5 changements, alors qu'on l'ait fait au départ dans le cadre de la crise sanitaire, je le comprends. A priori, cet été, on commencerait un petit peu à en sortir. Donc moi, j'espère qu'on va revenir quand même à 3 changements parce que ça retire toute la dimension stratégique des entraîneurs.
On ne revient jamais en arrière.
Ouais, moi j'étais comme vous, mais j'ai changé parce que crise sanitaire.
Mais
les joueurs sont fatigués, donc ils peuvent pas. Il y aura des listes élargies aussi avec la pandémie mondiale. Tout change. On est obligé d'avoir plus de joueurs et plus de remplacements.
Moi, pour moi, c'est
bien sûr
logique, mais si ça reste aléatoire, si dans 6 mois après l'Euro, comment ?
Si ça reste provisoire.
Oui, provisoire, pardon. Ouais, ouais. Une fois qu'on sera sorti, pardon, de l'euro, de cette crise sanitaire, comme vient de le dire Gilles, oui, il faudra revenir à ces 3
changements. C'est important et c'est intéressant de les faire, non seulement par rapport à la crise sanitaire, mais on s'est rendu compte que c'est quand même, ça peut apporter quelque chose de positif, là, surtout dans ces contextes. Et on l'a vu, les changements qui ont été faits pendant la C1, ils n'ont pas vraiment été tenus. Donc oui, pas impossible qu'on revienne à notre... Tout d'avant.
Dernier, j'y crois pas. En arrière, je n'y crois pas. Dernier tir au but. Avec une jauge à 30% de spectateurs à l'occasion de 7 euros, la compétition sera-t-elle sauvée, 30% de spectateurs par stade, si on s'y tient, sera-t-elle sauvée de son aspect festif ? 30%.
On n'y est pas encore au 30%. Hein. Moi, je vous disais, j'avais des billets. L'UEFA m'a proposé 10 fois de me les racheter pour une demi-finale à Londres. J'ai fini par les revendre au prix d'affiché. C'est-à-dire que j'avais acheté ça 2 billets, je m'étais fait plaisir, 600 euros. Ils me les ont rachetés 600 euros. J'ai cédé parce que je ne suis pas du tout persuadé qu'il y ait le moindre spectateur dans les stades. Et d'ailleurs, l'UEFA les a pas mis en vente encore, les billets.
Ce sera le mot de la fin avec Gilles Verdez. Gilles Verdez, le procureur dont fait le match. Baptiste Després pour le Figaro. La voix ensoleillée dont refait le match. Cindy Colmenares. Et notre ami des affaires institutionnelles, voilà. Et du 4-4-2,
voilà.
David Aiello. Merci beaucoup.
Merci Christian.
Pour votre participation. Merci à Baptiste Durieux pour tous les messages relayés sur le compte @RTLFoot. Merci à Damien Béchiot pour la réalisation. Merci mon Damien. À 20h, RTL Foot bien évidemment. Et merci surtout à vous tous de votre fidélité. RTL Foot, 20h-23h, avec notamment, mais pas seulement, l'intégralité de Lens-Lyon. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.